Bonjour et bienvenue sur Radio Rôliste, le podcast du jeu de rôle. Nous sommes en avril 2012 et c'est le numéro 14. Bonjour à tous, pour ce numéro je suis en compagnie de mon âme damnée, de mon petit homoncule à moi, Cyril. Bonjour Cyril.
Bonjour mon maître David.
Dans ce numéro nous critiquerons les jeux suivants, My Life with Master, Billet Rouge et Parsley. Nous aurons bien sûr tout à l'heure la chronique helvétique d'Antoine, avec la seconde partie du passage en revue des systèmes de jeu, suite à la dernière fois. Mais avant cela, voici les news. Ce mois-ci, les news seront courtes car je vais laisser de la place pour les interviews faites à l'occasion de la convention Eclipse à Rennes, convention qui fêtait cette année son 10e anniversaire. J'y étais déjà allé l'année passée, comme c'était super sympa, j'y suis retourné. Il y avait donc le fameux principe de la bourse au scénario comme il y avait à la CJDRA il y a quelques années. Je ne sais plus si je t'en ai parlé, Cyril.
Peut-être, mais avec mon âge, j'ai oublié. Hein.
D'accord. En gros, le principe, c'est que tu as tous les MJ potentiels qui ont envie de maîtriser quelque chose, qui descendent dans l'amphithéâtre. Pour le coup, c'est dans une fac, donc il y a un amphi. Et tous les joueurs potentiels sont assis. Et les MJ défilent et ils ont une minute pour présenter le jeu qu'ils veulent maîtriser et ainsi donner envie aux joueurs de participer. Et donc c'est un principe que je trouve plutôt pas mal parce que ça incite notamment les gens qui viennent présenter pour la première fois un jeu de rôle qui est pas encore sorti. Ça permet d'apprendre à en vanter les mérites si tu veux.
Oui.
Il y avait donc tout ce qui était parti, tout ça. Il y avait aussi un grand espace qui était réservé au stand des éditeurs et des types comme moi. À propos de types comme moi, il y avait donc justement il y avait Romaric du podcast de la cellule. Donc on a pu discuter et c'était vraiment chouette. Et j'ai d'ailleurs participé à son émission. Donc je sais pas trop quand est-ce qu'il la mettra en ligne, ce sera peut-être le prochain. C'était un débat dont le thème était « Les éditeurs sont-ils méchants ?»
Et on peut constater, Cobal, que tu es complètement intégré dans la podcastosphère.
Podcastosphère.
Après la blogosphère, c'est quoi, non ? La podcastosphère.
Oui, c'est ça. Ouais. Ah bah oui, qu'est-ce que tu veux ? Faut vivre avec son temps.
Je suis très admiratif.
Et voilà, donc vous en apprendrez sûrement plus dans le podcast en question. Je me souviens plus du tout de ce que j'ai raconté, mais ça devait pas être très très brillant. Bref.
Pour changer.
Alors là, d'ailleurs, justement à propos des interviews, on va les passer maintenant. Donc tout d'abord, il y a celle de Fabien Deneuville de Footbridge, qui est donc l'éditeur de la Bible du meneur de jeu et de prochainement Mouseguard et de Théocalie. Donc on a discuté un petit peu, c'est la première fois que je le rencontrais. Et donc évidemment, nous sommes revenus un petit peu sur ma critique.
Oui, t'as pas d'œil au bord noir, donc c'est un bon signe.
Non, la discussion a été virile mais correcte. Et je lui ai proposé de revenir un peu là-dessus, de dire s'il voulait rajouter quelque chose sur le sujet. Après tout, bon, c'est normal. Et puis voilà, après on a enchaîné sur les news et tout ça, mais je vous laisse écouter ça. Alors, je reçois donc Fabien Deneuville de Footbridge.
Bonjour.
Dont j'ai eu l'immense plaisir de dégommer son précédent bouquin. Alors, donc tu vas pouvoir maintenant un peu défendre tes produits. Alors même, d'ailleurs, si tu veux, on peut reprendre en live sur le sujet si ça t'intéresse. Parce qu'après tout, tu peux avoir un droit de réponse.
Droit de réponse, enfin...
Si tu penses...
C'est... Sur la Bible du meneur de jeu, non, moi je pense effectivement, bon, j'ai été déçu d'entendre que bah, vous aviez pas forcément, enfin en tout cas toi, t'avais pas forcément poussé très loin la lecture parce que t'avais pas, ça t'était tombé des mains comme tu l'as dit.
Oui.
Donc voilà, c'est dommage. Enfin, c'est effectivement, j'étais déçu d'entendre ça. Après, voilà, moi j'ai eu des retours sur le bouquin qui étaient très variés. J'ai eu des retours de gens qui étaient très enthousiastes. J'ai même eu quelqu'un la semaine dernière sur Facebook qui m'a dit le meilleur bouquin de ma collection de jeux de rôle, c'est la Bible du meneur de jeu.
D'accord.
Enfin, qui a dit, et voilà, c'est pas un de mes potes. Enfin, je veux dire, c'est quelqu'un que j'ai vu comme ça. J'ai trouvé ça vachement bien. J'ai des gens qui m'ont dit oui, c'est pas mal, c'est une bonne synthèse. Ou bien j'ai des gens qui m'ont dit ah bah non, effectivement, moi j'avais un petit peu déjà tout vu, ça m'a moins parlé. Donc j'ai vraiment un énorme spectre de réponses. Et comme je te disais juste avant hors antenne, ça pose la question de y a-t-il un ensemble de connaissances du meneur qu'on pourrait connaître plus ou moins. Et dans ce cas-là, peut-être que la Bible du meneur de jeu s'adresse qu'à un public qui ne connaît pas déjà tant de pourcentage ou d'étendue de ce domaine de connaissances. Donc c'est ça, à mon avis, la question. C'est une question intéressante. Bon, on en débattra peut-être pas ici parce que c'est pas forcément le sujet. Mais
moi, je suis pas sûr justement qu'il y ait cette espèce de corpus. Je suis pas sûr qu'il existe en fait.
Ouais. Mais dans ce cas-là, comment ça se fait que quand tu as lu le livre, tu t'es dit j'ai déjà tout vu, j'ai déjà tout lu? C'est donc que tu avais déjà vu des choses avant.
Oui, bien sûr.
De
bien
ce corpus de connaissances.
Oui, bah, du supplément Casus dont je parlais.
Manuel pratique, voilà, du jeu, voilà, de rôle, oui. Mm. Oui. Et comme je disais, alors justement, on m'a fait la remarque plusieurs fois. Effectivement, la Bible du meneur de jeu n'est pas le premier ouvrage de ce style. Effectivement, Casus Belli, dans sa première édition, avait fait en 1999, si je ne me trompe pas, le manuel pratique du jeu de rôle. Et quand j'ai conçu la Bible du meneur de jeu, j'ai pris le temps de racheter en occasion un manuel pratique jeu de rôle. Si, ça se trouve encore un petit peu.
Il me semble que la FFJDR en avait.
Voilà, c'est sûrement là où j'ai dû trouver ça. Et en fait, j'ai pris le temps de regarder exactement l'ensemble des sujets que moi je voulais aborder, l'ensemble des sujets qui avaient été abordés dans ce supplément, de recomparer, je dirais, article par article et paragraphe par paragraphe, quelles idées avaient été dites. Ou ouverte. Et effectivement, de m'assurer que je faisais pas de redite. Pas de redite. Alors, après, effectivement, les techniques de création de scénario, je dirais de base, que ce soit un scénario linéaire, arborescent, univers, ça, ouais, typiquement, ça fait partie de ce qui serait un champ de connaissances un peu commun. C'est-à-dire qu'on peut pas écrire un truc sur la création de scénario sans aborder ça. Ou peut-être qu'il faut après effectivement aborder d'autres thèmes, d'autres choses de création de scénar, que ce soit le scénario par événement, que ce soit le scénario
par bang,
voilà, ou que ce soit d'autres techniques effectivement qui ont été introduites par Lindier depuis 2003. Mais effectivement, c'est voilà, moi j'ai fait un bouquin qui a plu à certaines personnes, qui en a déplu à d'autres, et quelque part, comme je te disais, je suis même content que quelque part il est déplu, parce que ça montre qu'il y a un parti pris. Même si les gens ont pu se dire ah, il y a pas de parti pris, machin, c'est neutre, tout ça, mais quand même, si, il y a un parti pris, puisque s'il y a des gens qui disent c'est bien et des gens qui disent c'est pas bien, c'est qu'il y a un parti pris. Donc quelque part, moi je suis content qu'il y ait des gens qui n'aiment pas. Même à la limite sain.
Pour ma part, je suis convaincu qu'il n'y a pas mieux que de lier intimement le fond et la forme dans un jeu, c'est-à-dire que d'avoir des règles spécifiquement adaptées au contenu qui fait qu'on ne joue pas de la même façon dans tous les univers et
après non, mais le il y a des gens pour qui le concept même de guide de conseil pour meneur de jeu effectivement rébute. Et si
Romaric,
mais,
salut.
Non mais par exemple, mais je veux dire, effectivement, si on se dit que le concept du jeu, enfin le concept de ce livre ne me plaît pas, j'ai envie de dire à quoi ça sert de l'acheter, enfin gardez votre argent pour des jeux, effectivement. Là c'est un petit peu abrupt ce que je dis, mais voilà. Après, par contre, là où je suis, et j'en ai longuement débattu avec Romaric quand même à ce sujet là si un jeu qui prévoit toutes les règles de toutes les situations, de tout ce qui peut se passer à la table, quelque part c'est un jeu qui va aussi enfermer le meneur un petit peu trop. Et il y a des jeux qui existent, et il y en a qui sont bien faits, il y en a qui sont moins bien faits, qui vont enfermer le meneur, non pas uniquement, je parle des règles de la simulation, mais aussi dans sa manière de mener.
Oui.
Et qui vont l'encadrer par les règles, tellement que ça en devient ingérable et que ça en devient injouable. Donc pour moi, je pense qu'il faut quand même que chaque jeu se garde. C'est ce que Mathieu Gaboury appelait des zones grises. Il faisait une conférence l'autre jour sur le jeu Les Chroniques des Féales,
ouais,
où il parlait de ça. C'est-à-dire de se dire, il faut qu'il y ait un certain nombre de zones grises où le meneur est libre de faire ce qu'il veut. Mais c'est là où, quand il est libre de faire ce qu'il veut, on peut lui amener, non pas des règles, mais des conseils. Et je pense qu'il y a ce truc-là. Si dans ton jeu, tu dis, ok, la musique, par exemple, on va mettre une règle pour la musique d'ambiance, dès que la musique s'arrête, ça veut dire que votre scène de combat doit se terminer.
Ok, c'est cool, une règle, c'est intéressant. C'est une super idée.
Pourquoi pas ? Mais derrière, effectivement, ça veut dire que ça va correspondre à une manière de jouer, à un truc comme ça. On arrive de plus en plus vers du jeu qui sera sur mesure aux besoins d'un meneur.
Ben, en fait, dès que tu rajoutes des règles, ça colore la partie.
Oui, non, mais je dis pas qu'il en faut pas. Je dis pas qu'il en faut pas, on va pas se faire, enfin ça existe, hein, mais on va pas non plus faire du jeu sans règles, sans rien. Mais ce que je te dis, c'est qu'il faut qu'il y ait, à mon avis, un bon équilibre entre ce qui est donné par la règle.
J'entendais Ludovic parler tout à l'heure d'Apocalypse World, qui a un système de règles qui est super contraignant.
Tout à fait, justement.
Et c'est justement ce qui apporte l'intérêt au jeu, c'est cette contrainte.
Mais après ça dépend comment c'est fait, c'est ce que j'ai dit. Il y a des jeux, moi je suis en train de jouer à Burning Empires, qui pareil, qui est un jeu, ce n'est que de la règle, il y a 500 pages de règles. Et l'univers est décrit dans les règles, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de descriptif.
Ah mais oui, Burning Empires c'est du...
Le Crane.
C'est du... Will machin.
Burning Wheel, c'est Burning Wheel, ouais, c'est ça, ouais. C'est le Crane. Et effectivement, c'est un jeu où il n'y a pas de règles. Il n'y a pas d'univers. Quand on lit le bouquin, ça n'est que des règles. Les races sont décrites dans le chapitre de création de personnages.
D'accord.
Les voyages spatiaux sont décrits dans le chapitre sur les véhicules. Enfin, y a absolument pas de chapitre l'univers.
Ouais.
Et ça peut être difficile à prendre en main pour un meneur.
Mais en fait, c'est l'univers est complètement décrit dans les règles.
Tout à fait.
D'accord.
C'est ça.
Ah, c'est intéressant comme façon de faire.
Et en l'occurrence, ça tourne bien parce que c'est bien écrit. Mais j'imagine qu'un jeu qui contraint par trop de règles, en devient un peu brimant. Et quelque part, moi, quand je joue là en ce moment, et ça permettra d'enchaîner un peu sur l'actualité, on vient de sortir Teocalli, qui est donc un jeu de rôle relativement classique là dans son approche. C'est-à-dire, c'est un meneur, des joueurs, on décrit des situations, on a un système de jeu qui est pas trop prise de tête pour essayer de faire la part belle au récit. Et en fait, pour moi, je me retrouve effectivement à maîtriser de temps en temps des jeux avec des règles assez complexes et assez, non pas forcément complexes, mais assez complètes, dans le sens où elles vont planifier des choses pour le meneur dans sa créa de scénar, dans son animation de partie, dans sa gestion de campagne, et des jeux justement qui sont un peu, justement, où il y a moins de contraintes, où la notion de conseil prend un petit peu plus de sens. Et par exemple, quand je fais des parties de Teocalli, c'est un petit peu un retour un peu à des trucs plus simples.
Recentrons-nous sur ce jeu, justement.
Ouais.
Alors, est-ce que tu peux nous en décrire un petit peu les principes, l'univers
Tout à fait.
Que joue-t-on ?
Alors, Teocalli, c'est un jeu donc, qui est inspiré des légendes Maya et Aztec, donc de la Mésoamérique, comme on dit, qui est un jeu donc, où on joue des membres d'une civilisation qui habite sur une île fictive et qui est petit à petit envahie par des conquérants à la peau blanche, avides d'or. Vous voyez très bien la référence. C'est un jeu, c'est pas un jeu historique, c'est plutôt une espèce d'uchronie en fait, où on va essayer d'imaginer un peu ce qui se passerait sur cette civilisation-là.
D'accord.
Même s'il y a quelques éléments historiques, notamment dans la description des conquistadors, on reprend des gens qui faisaient partie de l'expédition de Cortés, etc.
Oui.
Donc il y a quelques petites briques, mais ça reste une uchronie puisqu'on est dans un lieu qui est un petit peu mythique, qui est une île perdue au milieu des brumes. On joue donc des membres de cette civilisation et on joue des guerriers tribaux, c'est-à-dire des gens qui ont des pouvoirs. Alors, dans ce jeu, on parle de la distinction entre la tribu et le clan.
Oui.
Le clan, c'est l'unité familiale, sociale, et la tribu, c'est l'unité religieuse. Donc,
d'accord.
En l'occurrence, là, on va y jouer des guerriers tribaux, donc des gens qui sont rattachés à une religion, en fait, à une divinité. Et il y a six tribus qui existent, et donc, ce sont les six grands clans, entre guillemets, de personnages qu'on peut
d'accord.
jouer, qui sont chacun rattachés à un théotle, le théotle étant leur divinité.
Et on joue, donc il y a six dieux...
C'est ça, six grandes divinités, effectivement, et on joue les serviteurs, les suivants de ces dieux-là, qui sont des gens hors du commun, ils ont des pouvoirs, ce qu'on appelle les grâces, qu'ils maîtrisent et qu'ils doivent utiliser à bon escient. Et ils doivent, en fait, ils sont un petit peu les garants de cette civilisation-là. C'est un peu les troupes d'élite envoyées par le seigneur de l'île pour protéger leur civilisation de l'arrivée des hommes blancs.
Et donc, sur ces entrefaits, les Espagnols arrivent et ils doivent faire en sorte de sauver leur peuple.
Sans renier leurs principes.
Voilà.
C'est ça, en fait, effectivement, l'intérêt du jeu, c'est qu'on a intégré ces notions un petit peu sociologiques à la base de tabous. Puisqu'en fait, les membres de cette civilisation ont 6 tabous très puissants qu'ils doivent respecter. Alors, qu'ils doivent, bien sûr, à nouveau, c'est théorique. Après, il y a toujours la possibilité de les enfreindre.
Et c'est un tabou différent par clan ?
Pas vraiment. On n'en a pas vraiment. Disons qu'on peut s'amuser en filigrane à les retrouver, je pense. Mais c'est pas spécialement au sein de cette civilisation-là, c'est pas spécialement assumé.
D'accord.
C'est pas spécialement assumé cette filiation-là. Par contre, effectivement, ils ont 6 tabous à suivre, et le plus important et celui qui structure vraiment le jeu, c'est le premier, qui est tu n'ôteras pas la vie humaine.
Et ça pour un jeu de rôle, c'est vrai que c'est quand même quelque chose qu'on a jamais vu. D'habitude, on est là pour charcler.
C'est ça le point.
Et là, les personnages ne pourront pas tuer l'ennemi. Alors, qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir faire contre ces maudits Espagnols ?
Alors, bon, déjà, alors il y a pas, il y a effectivement la lutte contre les conquérants. Il n'y a pas que cet axe-là dans le jeu. On peut très bien aussi imaginer des intrigues au sein de la propre civilisation, des intrigues face à tout le surnaturel, puisque le surnaturel est très présent dans le jeu, des créatures mythologiques, de l'influence divine, etc. Donc,
d'accord.
La thématique, certes, le cœur d'une campagne, c'est effectivement la confrontation avec l'ennemi conquérant, mais il y a d'autres thématiques qu'on peut explorer dans le jeu. Et effectivement, que vont-ils faire ? C'est semer la peur, le doute, la discorde, l'intimidation. On ne peut pas tuer, mais on peut trouver tout un tas de manières d'arriver à ses fins. Ça peut être effectivement de rentrer, parce qu'on joue des tribaux, on joue des gens qui ont du pouvoir. Donc ça peut être pour les membres de la tribu des Tsoniti de rentrer dans les rêves des conquérants pour essayer de leur faire passer un certain message de sorte à ce qu'ils n'attaquent pas un tel ou un tel. Ou ça peut être de créer une illusion pour les faire s'enfuir, pour les intimider. Ou ça peut être de manipuler, il y a une tribu qui s'appelle les Totessi, qui peuvent manipuler les éléments. Donc les éléments, ça peut être, les conquérants arrivent, on va changer le sol en boue pour qu'ils s'embourbent et pas qu'ils puissent avancer.
Oui,
ou bien la tribu des Centes, qui ont du pouvoir sur le métal, et qui peuvent, ces espèces de lances qui crachent le feu que portent les conquérants, les faire fondre, les faire tordre, ou les faire se retourner contre leurs porteurs. Donc il faut trouver des moyens de vaincre l'ennemi sans ôter la vie humaine. Alors il y a une notion sociale dans ce tabou, et il y a aussi une notion surnaturelle. Ce que je disais, le surnaturel est important, et en fait, dans ce monde, les âmes des morts ne peuvent pas rejoindre l'au-delà, et elles sont canalisées vers des réceptacles qui sont des statues d'or qu'on appelle les Wakan, qui sont disséminées un petit peu partout sur leur île. Et l'idée, c'est que évidemment, les âmes qui ne peuvent pas trouver le repos dans ces Wakan vont venir perturber le sommeil des mortels,
des vivants.
Et surtout que les conquérants, quand ils arrivent et qu'ils voient des énormes statues d'or réparties un petit peu partout, la première chose qu'ils vont faire,
forcément essayer de les piquer,
c'est de les récupérer ou de les mettre en morceaux. Et forcément, les âmes qui sont dedans vont se dispatcher un petit peu partout et vont commencer à semer le chaos. Donc d'ôter une vie humaine et de remettre encore des âmes dans cette boucle, ça ne fait qu'alimenter le problème.
Mais alors du coup, lorsqu'il y a une de ces statues qui est détruite, finalement, quand ça commence à aller mal, ça ne peut qu'aller de plus en plus mal.
Tout à fait. Et c'est pour ça qu'on a un système de... On a quand même mis une petite innovation dans le système de jeu, qui est un système de gestion de campagne. En fait, le meneur peut, s'il le souhaite, pour gérer sa campagne, utiliser une mécanique de jeu qui reprend deux scores, un score de conquête et un score d'insanité, qui vont de 1 à 10, qui sont à 3 au départ, et qui vont progresser ou diminuer suivant l'avancée et les actions des joueurs. Donc, effectivement, le score de conquête représente à quel point les conquérants sont avancés dans l'île.
Oui.
Donc ça, c'est associé à une carte de conquête qui définit des zones sur l'île où il y a différents niveaux. Mais ça peut jouer sur les scénarios. C'est-à-dire que si on joue un scénario dans une zone disputée, on sait qu'il y aura plus de chances de tomber sur une troupe de conquérants que si on est dans une zone qui n'est pas encore conquise.
Et insanité, c'est le nombre d'âmes...
C'est ça. Ça représente à quel point les habitants de ces zones sont perturbés par les âmes qui ne trouvent pas le repos. Exactement. Donc, effectivement, l'idée, c'est que ces compteurs vont progresser Et alors ils peuvent également diminuer hein, selon les actions des joueurs. En fait, à la fin de chaque partie, quand on joue en campagne, le meneur va à une liste d'actions. Voilà. Est-ce que les joueurs ont utilisé la violence? Est-ce qu'ils ont ôté la vie humaine? Est-ce que des vies humaines ont été ôtées indépendamment de ce qu'ont fait les joueurs? Est-ce que les conquérants ont été repoussés? Etc. etc. Et en D'accord. fonction des réponses à ces questions, on va faire progresser plus ou moins les compteurs dans un sens ou dans l'autre. Donc D'accord. ça, c'est effectivement, et ça reflète cette notion que tu disais d'irréversibilité ou pas, non. parce que quand même, il y a des moyens de faire en sorte que ça ne progresse pas, mais bon, c'est pas si évident.
Tel que tu le décris, ça n'a oui. pas l'air facile de revenir en
arrière. Ah mais non, mais bien sûr.
Mais
bon, il y a quand même un enjeu, il y a quand même une possibilité de faire en sorte d'arrêter les choses. Et évidemment, si rien n'est joué d'avance, c'est un jeu de rôle. Le but, c'est de montrer comment les braves guerriers tribaux vont essayer de faire tout D'accord. pour D'accord. protéger leur civilisation.
Ok, très bien. Bon, donc là, le jeu est maintenant disponible en boutique.
Alors, il n'est pas encore disponible en boutique. Le temps qu'il soit dans les circuits, il est ouais. imprimé. Il est disponible sur les conventions. Il sera disponible. Alors là, on est. Je ne sais pas quand sera diffusé ce podcast, mais là, on est début avril. Donc normalement, d'ici, je dirais d'ici une semaine ou deux, il sera disponible sur notre site et okay. il sera disponible en boutique. Je pense dans le courant du mois d'avril, parce qu'il D'accord. sera distribué par Millennium comme la Bible du meneur de jeu. D'accord. Et donc là, c'est juste une question de timing, le temps qu'on fasse les papiers avec Millennium pour tout ce D'accord. qui est contrat, etc., qu'on envoie les bouquins. Donc c'est dans le courant du mois, dans le courant
D'accord.
du mois d'avril.
Ok, là, très bien. Est... Et alors, moi, j'attends avec une très grande impatience les légendes de la garde.
Comme beaucoup de monde.
Je pense que nous sommes nombreux.
Comme beaucoup de monde. Non, non, bah, les légendes de la garde, ça avance. Effectivement, que les souscripteurs se rassurent, ça avance bien.
Je veux ma boîte.
Voilà, tous les gens qui ont effectivement souscrit à une boîte auront leur boîte, évidemment. Je suis en train actuellement de faire les relectures sur la traduction. Ouais. Donc j'en suis quasiment à la moitié du bouquin en relecture. Et en fait, j'ai les maquettistes qui travaillent à la chaîne juste derrière. Donc l'idée c'est qu'on fait en parallèle les relectures et la maquette. Donc là sur les donc l'ensemble du texte ça doit tenir en 17 fichiers ou quelque chose comme ça. Ouais. Moi j'en suis au 10e en relecture et en harmonisation et les maquettistes en sont au 6e ou au 7e. Donc en fait, ils me talonnent dans la maquette. Donc ça vient juste derrière. Donc là, j'espère avoir des fichiers terminés et prêts à imprimer pour début mi-mai. Et ouais. après, il faut compter environ 6 semaines le temps que ça revienne de fabrication.
D'accord. Okay.
Donc, on va essayer de faire au plus vite.
Juillet, quelque chose comme ça.
Bah, fin juin, début juillet, on espère. Maintenant, comme je l'ai déjà dit et je le dis souvent, je préfère un jeu qui soit fini, qui soit propre, qui soit beau, plutôt qu'un truc qu'on va bâcler et qui sera pas bien. Donc c'est pour ça que voilà, je rassure les souscripteurs qu'ils auront leur boîte de jeu, ils auront leur jeu, ce sera un très bon jeu, c'est un très bon jeu et en français ce sera encore mieux. Mmh. Et voilà, il faut juste être patient, on veut que ce soit un bon jeu. Mmh. Voilà, moi j'ai quelqu'un qui m'a laissé un commentaire pas longtemps. Oui, je voulais maîtriser à telle ou telle convention. Je dis, bah, je peux te l'envoyer, mais bon, si avec toutes les fautes, ça va vraiment te piquer les yeux. Donc autant qu'on prenne le temps de bien le bosser et que ce soit propre. Donc voilà où est-ce qu'on en est au jour d'aujourd'hui.
D'accord. Et donc il y avait également New Haven. Hein, ça fait un bon moment. D'ailleurs, il a été présenté avant Théocali, si je me souviens bien.
Alors oui, alors en fait, oui, dans l'histoire, il a été présenté avant. Alors en fait, oui, le timing. Bon, après, c'est les projets de jeux de rôle, on pourrait faire un podcast complet là-dessus, mais c'est toujours très très long. Et en fait, le timing, c'est qu'au mois d'octobre 2010, ouais, octobre 2010, on a commencé. J'ai rencontré les auteurs de Théocali pour la première fois pour faire les tests.
Oui.
Et c'est en janvier 2011 que moi j'ai eu le déclic de me dire je vais faire un jeu post-apo sans meneur, etc.
D'accord.
Donc c'est pour ça. Et après du coup il a été peut-être que je l'ai annoncé avant, etc.
Oui.
Mais bon voilà, les deux projets ont progressé en parallèle. D'accord. Donc là New Haven il sortira donc un peu après. Je pense que à mon avis il partira sur la même fabrication que les gens de la garde, parce que là aujourd'hui le jeu est terminé. On en est pareil, on a une maquette qui est faite et on est là uniquement sur des reprises de maquettes. maquette. Mm-hmm. Donc en fait, on est peut-être un petit cran devant les légendes de la garde, parce que les légendes de la garde, toute la maquette n'est pas encore faite. Et là, on est un petit cran devant, puisque en fait, là, toute la maquette est faite, c'est juste de la correction de coquilles sur les cartes, sur les règles, choses comme ça.
D'accord.
Mais oui. tout est illustré, écrit, maquetté. Voilà. Donc c'est, je pense que pour des raisons de voilà, essayer de d'optimiser un petit peu, à mon avis, ça partira en fabrication en même temps que les légendes de la garde.
Donc New Haven, au niveau de la forme, il est un petit peu original puisque c'est un jeu de rôle qui se joue déjà avec des cartes, sans meneur et donc on tourne en fait.
Alors chaque joueur effectivement dans New Haven, ce qui va créer l'histoire, c'est pas un meneur de jeu, c'est chaque joueur qui à son tour va être le joueur actif. Mm-hmm. Donc c'est du tour par tour. Et chaque joueur sera à son tour le joueur actif, et pendant son tour, c'est, qui va durer... alors ça dépend des tours, parce que les premiers tours sont forcément plus longs que les suivants, le temps de prendre un petit peu le rythme du jeu, mais je pense qu'une fois que c'est en route, ça va être entre 10 et 20 minutes par tour, oui. Où il va être celui qui va faire avancer l'histoire et décrire le récit. Et c'est donc à la fois ce système de joueur actif et cette interaction avec le système de jeu, puisqu'en fait il y a un système de jeu, chaque joueur à son tour va suivre un déroulement du tour de jeu.
Oui.
Différentes phases, différentes scènes qui sont jouées successivement. Uh-huh. C'est ça qui va créer le récit.
Donc,
c'est en fait effectivement c'est un jeu innovant. C'est un jeu de création française dans le genre. Donc il y a déjà effectivement quelques jeux sans meneur qui existent. On parlait de Ludovic tout à l'heure qui en a traduit quelques-uns. Là, on est vraiment sur de la création et on est vraiment sur quelque chose d'innovant, de nouveau. Les cartes sont très très belles, les retours retours qu'on a en test sont vraiment très bons. Mmh. Bon, effectivement, forcément, quelqu'un qui... Il y a un parti pris à nouveau, je veux dire, il y a un parti pris, c'est du jeu sans meneur. C'est, voilà, quelqu'un qui aime bien faire du jeu où il va lancer le dé toutes les deux minutes, effectivement, il va être un petit peu perdu parce que dans New Haven, il y a un jet de dé par tour de jeu, voire deux s'il y a une récompense, et il est relativement crucial. Donc il y a beaucoup d'enjeux, donc c'est très narratif. Donc voilà, ça c'est le truc. Ensuite, c'est un jeu, c'est un univers post-apo, c'est un univers dur, c'est un univers mortel, et effectivement, on joue tous ensemble pour essayer de s'en sortir, et bien souvent, il s'avère que tout le monde meurt avant la fin de la partie, enfin, bien souvent. Je pense que le taux de réussite, grosso modo, on doit être à peu près 40%, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est un jeu difficile, c'est un jeu dur, assez mortel. Et effectivement, les gens qui aiment les jeux où tout se passe comme sur des roulettes, ce sera pas non plus leur tasse de thé. Donc voilà, c'est un jeu avec un parti pris, mais c'est un jeu qui est vraiment... moi, j'aime beaucoup... les retours que j'en ai sont bons, et en tant qu'auteur, c'est le meilleur des cadeaux, quoi.
Et en fait, au niveau de la structure de la partie, est-ce que ce serait un peu comme un film, c'est-à-dire où tu as une scène d'introduction, une première péripétie, des choses comme ça? Enfin, je sais pas trop, c'est ce que j'en perçois, mais j'en suis pas sûr.
Si,
en fait.
Exactement. Il y a un déroulement du tour de jeu et il y a un déroulement de la partie.
Ouais,
c'est-à-dire qu'en fait, la partie s'organise en deux manches. Mm-hmm. Une manche étant un moment où chacun sera à son tour joueur actif.
D'accord.
C'est l'équivalent d'un tour de table, en fait.
Ah, c'est-à-dire qu'en deux tours de table, la partie est terminée?
C'est ça. Donc en fait, c'est un jeu qui va se jouer de 1 à 4 joueurs.
Ouais.
Et parce qu'on peut aussi le jouer en solo en se racontant l'histoire. Et il y a
Et tu peux même perdre tout seul.
Oui, mais bien sûr. Les deux tours, sur les deux tours de table, effectivement, on va finir à peu près 45 minutes, une heure par joueur en tout.
Mm-hmm.
Donc effectivement, une partie avec 4 joueurs va durer 4 heures. On va pas faire des parties de 8 heures ou 10 heures. Effectivement,
oui,
avec ce jeu-là.
Oui.
C'est pour ça que moi-même, je vois sur des conventions où il y a où ils font des créneaux horaires très très longs, en général, je fais pas jouer New Haven parce que je sais qu'au bout de 4 heures, 4-5 heures de jeu, j'aurais fini. Donc, effectivement.
Déjà, 4 heures pour deux tours de table, ça fait.
Ah, mais
ça fait
beaucoup, après, ça dépend. Mais après, ça dépend aussi de à quel point les joueurs sont volubiles dans leur récit. Puisque
c'est
à l'image des joueurs. Je veux dire, les joueurs créent l'histoire. Il n'y a pas de meneur donc, pour inclure le truc. Il y a forcément quelqu'un qui a acheté le jeu, qui a lu les règles, qui les explique. Mais ça, c'est comme dans n'importe quel jeu.
Oui.
Même dans les jeux de société, c'est comme ça. Mais effectivement, les joueurs qui veulent interpréter, c'est un jeu qui se prête énormément, de par la structure du tour de jeu, de par les différentes scènes, de par les mécaniques qu'on a mis, à l'interaction, à l'interprétation, à la discussion, à jouer son perso.
D'accord.
Enfin, c'est voilà, il y a matière à vraiment créer une vraie histoire.
D'accord. Bon, eh bien, écoute, merci. Alors, est-ce que par hasard, tu as d'autres projets
Oui, bien sûr.
Du genre
non, bien sûr. Mais non, mais alors, le gros problème, c'est qu'effectivement, si je commence à annoncer des choses alors que j'ai déjà pas sorti tout ce que j'ai annoncé avant, oui. C'est pas terrible.
Ah, on va te tomber sur le poil.
Voilà, ça va créer de l'attente, tout ça. Donc, déjà, effectivement, il y a beaucoup d'attentes. Donc, oui, je bosse déjà sur d'autres trucs, mais c'est trop tôt pour en parler. Voilà.
Ok, bah au moins j'aurais essayé.
mais bien sûr, oui, il y a d'autres choses derrière. Il y a, alors, ce qu'il y a et ce qu'il risque d'y avoir, c'est une suite sur Teocali, sur New Haven. Teocali, on est déjà en train de travailler sur un écran qui sera accompagné d'un petit supplément qui contiendra notamment un bestiaire.
Oui.
Avec des créatures fantastiques, des choses comme ça. Y en a déjà dans le livre de base, mais on va en rajouter un petit peu et puis on va mettre un autre scénario. Enfin, on va rajouter un peu de matériel. New Haven, bon bah on verra en fonction du
peut-être
jeu.
Des sets de cartes.
Peut-être qu'il y aura des extensions, voilà, possibles, mais ça c'est encore un petit peu trop tôt pour en parler.
Oui.
Et puis oui, il y a d'autres projets, bien sûr, mais bon, c'est un petit peu trop tôt pour le dire. Et puis on attendra le bon moment pour commencer à les annoncer. Si on annonce trop tôt, c'est pas bon non plus.
D'accord. Bah merci Fabien.
Merci à vous.
Salut. Voilà, c'est fini pour cette interview. Et maintenant, je te propose qu'on écoute... on va toutes les écouter un petit peu au fur et à mesure. Donc, il va y avoir tout d'abord le nouvel éditeur qui s'appelle Expédition pour le jeu Chasseur de Primes.
Puis la boîte à eux avec l'interview de Ludovic Papaïs.
Puis le septième cercle avec donc toutes leurs prochaines sorties. Nous aurons également les Ludopathes. Et enfin, l'interview de Jérôme Larré, Brand, pour Guts. Et quelques infos sur le jeu mystérieux qu'il va éditer avant ça. Voilà.
C'est aussi attendu qu'une nouveauté chez Apple ou un truc du style. Les rumeurs bruissent.
Ah oui, oui.
Tout Internet en parle. Et voici les news qui viennent de David, de Radio Release, de Cobal.
Alors John Cube, bonjour.
Bonjour.
Donc tu diriges une nouvelle maison d'édition qui s'appelle Expédition.
Tout à fait.
Et ton premier jeu, c'est Chasseur de Primes. Donc un jeu dont tu es également l'auteur.
Oui.
Alors pour commencer, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu la maison d'édition, savoir quelle va être la ligne directrice que tu comptes utiliser pour tes prochains jeux, voilà, comment ça t'est venu, tout ça. Allez, dis-nous tout.
Ok, donc principalement l'inspiration. J'ai été inspiré pour écrire Chasseur de Primes.
Oui.
Et j'ai eu l'occasion de pouvoir créer ma boîte d'édition, donc je l'ai faite. Tout simplement. Et donc j'ai fait ça en avril 2011 pour avoir des bons délais administratifs.
Oui.
Et du coup j'ai mis entre temps, bien avant, j'avais déjà commencé à écrire le bouquin.
Oui.
Et donc voilà, après recherche d'imprimeur, petit délai d'imprimeur, petit retard d'imprimeur. Le jeu à l'origine devait être sorti avant Noël 2011.
Ah oui.
Là, il est sorti que le mois dernier. Donc c'est pas forcément la meilleure période, mais j'ai un bon distributeur qui est Légion.
Oui.
Et donc voilà, ça le
oui,
fait.
C'est le distributeur associatif, c'est ça.
Oui,
le
c'est
Légion.
Ça. Ouais. 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 Donc voilà, donc le jeu Chasseur de Primes est un jeu d'anticipation.
Ouais.
Donc j'ai pris comme événement réel la crise financière que l'on a vécue en 2009.
Mm-hmm.
Et donc j'ai extrapolé jusqu'en 2072. Où en 2072, la Super Europe, ou création, c'est les États-Unis d'Europe qui ont été créés il y a quelques années maintenant, et donc qui est complètement coupée du monde.
Mmh.
Et c'est géré par une administration où la langue officielle c'est le français, parce que c'est un groupe de Français qui a eu l'idée de créer les États-Unis d'Europe.
Oui.
Au niveau social, c'est basé sur le recyclage à 100%. Donc tout produit est recyclé à 100%.
D'accord.
Okay. Donc ça peut être des vêtements. Alors il y a des premiers vêtements produits qu'on appelle des produits de synthèse, qui vont avoir des couleurs un peu flashy, etc. Donc on peut facilement trouver des gens avec des vêtements recyclés, donc à plusieurs générations. C'est plus le vêtement est recyclé, plus la génération de recyclage augmente. Et à chaque recyclage, le vêtement prend une teinte grisâtre. Donc on peut percevoir aussi une classe sociale.
Ah d'accord, ceux qui ont les vêtements les plus flashy, c'est ceux qui ont pu se permettre d'avoir un truc de première main.
Voilà. Donc on peut facilement voir quelqu'un habillé sobrement avec une petite cravate verte fluo ou une paire de chaussettes jaune fluo, etc. etc.
Ouais.
Et sinon, les énergies fossiles ont été exclues.
Ouais. Donc,
maintenant, l'énergie primaire, c'est l'hydrogène.
Ouais.
Pareil, qui est recyclé à 100%, donc c'est très régulé. Maintenant, les stations essence, c'est des comptoirs énergétiques.
Uh-huh.
Et donc ça, c'est la première source d'énergie. Et donc le but de Chasseur de Primes, uh-huh, c'est que en 2072, il y a toujours eu la criminalité n'a cessé d'augmenter malgré la création d'un bureau fédéral européen.
Ouais.
C'est un peu l'équivalent du FBI que j'ai implanté sur l'Europe.
Oui.
Et donc malgré la création de ce bureau fédéral européen, et ben les inégalités, la criminalité n'a cessé d'augmenter, ce qui fait que les gouvernements européens ont décidé
Et à quoi c'est dû en fait cette augmentation de la criminalité?
Et ben en fait
par
que,
rapport au contexte
par rapport déjà en Europe du coup on peut pas par rapport à l'agriculture, etc.
Oui.
L'Europe ne peut pas subvenir aux besoins de tout le monde. Ce qui
oui.
fait qu'il y a eu des créations de compléments alimentaires, etc. Donc,
d'accord.
Du coup, par rapport aux différences de classe sociale,
oui.
tu vas très bien retrouver des gens qui vont se nourrir qu'en complément alimentaire parce que c'est 3 euros un complément alimentaire, un kit.
Ouais.
Alors qu'un vrai repas, ça va être entre 15 et 30 euros. Quoi.
D'accord, donc, ok. Ah oui, ils mangent des pilules, quoi.
Voilà, ils mangent des pilules.
Et c'est ça qui fait augmenter la criminalité?
Eh ben non, c'est que il va y avoir des par exemple des falsifications de documents. On retrouve un peu
pour essayer de se surclasser ou d'avoir des trucs mieux.
Même par rapport à parce qu'en fait depuis 2058 chaque nourrisson a une puce A qui est implantée.
Oui, alors qu'est-ce que c'est cette puce?
Et donc en fait c'est tout simplement une puce où il y a toutes les identifications de l'individu.
Ah oui, ils ont une carte d'identité sous la peau.
Voilà. Donc il va pouvoir payer avec, prendre un logement, faire tout ce qui est nécessaire. Il y a toujours comme on joue en 2072. Les joueurs pourront tout à fait incarner un personnage qui a décidé de ne pas avoir la puce. Parce que on laisse le choix. Quoi.
Ah oui, d'accord. Okay.
Donc du coup, ils payent sur un ancien système ou via leur console.
Mm-hmm.
Qui est, la console, c'est l'évolution du smartphone.
Ouais.
Où on peut tout faire avec. Quoi.
D'accord. Okay. Ouais. C'est déjà le cas dans certains pays, je crois, où tu peux payer avec ton smartphone, faire des trucs comme ça. Et comment devient-on chasseur de primes?
Alors on devient chasseur de primes. Alors il y a soit les plus hautes classes sociales qui au final on peut dire un individu s'ennuie un peu, etc. Il veut s'amuser un peu.
Oui.
Il a beaucoup d'argent. Pour lui c'est aucun problème.
Là c'est juste pour la frime en fait.
Voilà, juste pour la frime. Donc lui il va avoir des super bons équipements, super véhicules avec pas mal de modules et tout.
Ouais.
Et du coup lui ça aucun problème pour dépenser les 25 000 euros pour acheter la licence.
D'accord. Okay.
Les 25 000 euros, donc c'est la licence plus le gun spécial qui est un X60,
mm-hmm,
et une petite formation courte à son utilisation.
Okay. D'accord. Et donc, sinon, les autres personnages, ce sont des gens qui...
Lambda. Tout à fait. Le citoyen lambda qui arrive à une telle situation catastrophique financière, même dans le privé, au niveau du couple, on peut imaginer tout ce qu'on veut.
Un divorce qui se passe mal.
Tout à fait.
comme ce qui est dans l'introduction du jeu où... Comme il est décrit, le personnage a eu un moins bon avocat que sa femme, et donc du coup, voilà.
Tout à fait, tout à fait.
Et parce que ces chasseurs de primes, c'est extrêmement bien rémunéré quand tu captures quelqu'un.
Quand on y arrive, oui. Quand
d'accord.
on y arrive, ouais. C'est ça le but à la création du personnage.
Uh-huh.
On va, c'est ça qui est intéressant, c'est que on part vraiment bas niveau, quoi, parce que on va incarner quelqu'un, un ancien comptable.
Hop, oh, ça.
C'est bon.
Ouais, vas-y, vas-y.
Donc, est-ce qu'on va incarner un ancien comptable, quelqu'un qui travaille dans un commerce, etc. Et soit il a fait quelques conneries à côté, et puis les dettes se sont accumulées, il a rien dit, il a fait semblant, et ça s'est engrainé, gangréné au fur et à mesure. Et donc, il choisit de tout miser sur cet ultime choix. Que de prendre un dernier crédit, d'aller voir un prêteur sur gage à un taux d'intérêt énorme,
exorbitant,
voilà, pour se payer la licence.
Donc finalement, quand il commence sa carrière, il est quasiment plus dans la merde que quand
quelques mois plus tôt. Sur dans le bouquin de base, j'ai mis sur l'argent de départ indécent multiplié par 100. Et ce qui est pas mal de jouer, c'est ça représente la dette. Et à laquelle on soustrait encore les 25 000 euros.
Oui, comme ça, à laquelle on ajoute encore les 25 000 euros.
En dette, ouais. Comme ça, le joueur, il part avec entre 25 000 et 40 000 euros de dette.
Et si jamais il ne paye pas, qu'est-ce qui leur arrive?
Ah bah, soit ils se font rattraper par les créanciers, dès que les dettes s'accumulent, ils peuvent se retrouver en taule. Du coup, bah... Après,
c'est ils peuvent devenir eux-mêmes la proie de chasseurs de primes.
Eux-mêmes imprimés et terminer en Pologne. Parce que la Pologne, c'est un État fédéral, c'est un État pénitentiaire.
Ah, d'accord.
Et donc, du coup, c'est là que sont...
C'est la punition, en fait.
Voilà,
quand,
c'est ça.
Ça
va pas, un petit voyage en Pologne
Pénitentiaire. Ah oui, ça doit pas être joyeux comme environnement. D'accord. Et alors, quel est le suivi que tu as prévu pour cette gamme?
Alors, donc, il y a un écran de jeu qui va sortir au mois de septembre.
Ouais.
Premier trimestre 2013, va y avoir un bon scénar.
Ouais.
De environ peut-être 120-140 pages.
D'accord.
Et deux suppléments de contexte de jeu qui sera assez évolutif.
D'accord. Et qui seront centrés sur quel thème?
Eh ben sur justement l'avenir des chasseurs de primes. Ils
D'accord.
pourront évoluer vers un autre statut,
uh-huh.
vers deux autres statuts en fait.
D'accord, ok.
Et ça peut être intéressant.
Ok. Bah écoute, merci beaucoup.
Mais de rien.
Salut.
Salut.
Donc bonjour Ludovic.
Bonjour.
Donc tu incarnes la boîte à eux.
C'est ça, c'est moi.
Donc qui est une maison d'édition qui diffuse des jeux en petit format surtout.
En format A5, oui, tout à fait.
Voilà.
Et à petite échelle aussi.
D'accord. Donc, c'est. Alors, justement, il y a. La démarche de la boîte à eux m'intéresse beaucoup parce que ce ne sont quasiment que des jeux indépendants.
Oui.
Donc, des petits tirages sur des thèmes qui sont vraiment très particuliers.
Sans typer, oui.
Voilà. Qui sont typés, voire barrés.
Parfois.
Et j'aimerais un peu que tu m'expliques quelle est finalement ta démarche pour le choix des jeux. Et voilà.
Pour le choix des jeux, c'est très simple. Hein. Je vais sur les forums américains, anglophones,
ouais,
au sens
sur
large.
The Forge.
Alors The Forge est mort, donc on ne peut plus y aller, mais... sur The Forge, sur Story Game, sur d'autres
RPGnet,
etc. Et puis je cherche des petits jeux voilà, qui font parler d'eux ou pas, mais des trucs qui m'attirent. Puis j'achète en quantité quand même, plutôt en PDF pour éviter les frais de port.
Oui.
Je lis, et puis si ça me botte, je contacte l'auteur, si ça me botte pas, je contacte pas l'auteur et je passe au suivant. Quoi. Voilà, c'est ma démarche, c'est d'essayer d'importer des trucs. Un peu indie, quoi, ce qu'ils appellent les indie games.
Donc quelque chose de différent ou avec parfois un dosage entre les différentes attributions des joueurs différents des jeux de rôle classiques.
Oui, moi je fais pas dans le jeu classique parce que de toute façon il y en a qui le font mieux que moi. Je ne saurais pas faire. Et donc je cherche des jeux qui amènent quelque chose de nouveau. Peut-être des choses qui se faisaient déjà sur les tables,
hein,
peut-être de manière officieuse, mais là c'est inclus dans les règles. Donc c'est souvent lié au partage de narration qui est différent du meneur qui s'occupe de tout ce qui est décor et PNJ et le joueur s'occupe de son personnage. Là, c'est vrai que le partage de narration est plus flou.
D'accord. Alors, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu les dernières sorties
Il y a un gros projet pour fin mai, début juin, c'est Perfect.
Perfect.
Un jeu où la société est parfaite, sauf les joueurs, qui sont des criminels. Donc, c'est dans l'esprit de 1984, de Brazil, d'Equilibrium. On est dans une société totalitaire où tout est verrouillé,
oui.
Une société très froide.
Oui.
Et les joueurs sont des criminels parce qu'ils aiment l'art. Ils aiment tout court, s'il faut.
Oui.
Ils aiment l'écriture, ils s'intéressent aux choses du passé, ce qui est interdit, hein, le passé c'est mal. Et voilà, ils vont décrire leurs crimes et ils vont évoluer dans cet univers.
D'accord. Et dans ce jeu-là, il y a une issue possible ou
alors il y a deux issues possibles.
Hein. C'est à la Polaris, c'est-à-dire on sait que ça va très mal se finir de toute façon. Alors,
ce qui est sûr, c'est que
enfin celui de Ben Lehman, bien sûr.
Ouais, ce qui est sûr, c'est que les joueurs en prennent plein la tête.
Ouais.
C'est de la torture. En fait, le système fait que les criminels sont torturés et on considère qu'après un bon lavage de cerveau, ils reviennent dans le droit chemin. Ce qui n'est pas vrai, puisque les joueurs jouent des criminels un peu plus résistants que la moyenne.
D'accord.
Et donc, ils vont insister et vont continuer à se rebeller. Il y a deux issues possibles. Soit, au bout d'un moment, le criminel en a pris tellement la tête qu'il craque et qu'il finalement rentre dans le rang.
Oui.
Soit, il décide d'un coup d'éclat à la V pour Vendetta. Et
oui.
Il se sacrifie, entre guillemets, pour la bonne cause.
D'accord.
Enfin, pour sa cause, du moins.
Oui, pour sa cause, en tout cas. C'est le...
S'il faut, le gouvernement est sympa et c'est une mauvaise cause. Non, non. Donc voilà, c'est du MJ tournant aussi, on peut préciser.
C'est-à-dire,
tour de rôle, on va être meneur et on va cadrer des scènes pour un joueur qui sera mis en lumière.
Donc il y a un joueur...
Un joueur actif.
MJ tournant, un joueur actif, enfin en tout cas principal,
ouais.
Et les autres qui
peuvent
apporter de la couleur.
Qui peuvent apporter de la couleur, effectivement.
D'accord.
C'est très éloigné du JDR, il faut avouer, parce que la mécanique est très plateau. C'est-à-dire on a un cycle qu'un joueur va suivre entièrement, enfin
oui.
Le personnage du joueur va suivre entièrement, et le cycle est défini en tour, enfin en scène on va dire.
Oui.
Une scène de crime, une scène de découverte, une scène de torture s'il y a capture, et une scène de réflexion à la fin.
D'accord.
Donc il n'y a pas toujours capture, mais à chaque cycle il y a un crime.
D'accord.
Et un joueur va suivre tout ce cycle avant que ça passe au joueur suivant.
D'accord. Mais tu dis qu'il y a une mécanique de plateau, il y a quelque chose de matérialisé ou c'est juste.
Non, c'est matérialisé par la fiche de personnage qui évolue.
Oui.
C'est matérialisé par une aide de jeu qui est très. Qui définit l'ordre du tour en fait.
Ouais.
Comme dans un jeu de plateau où on a une aide de jeu qui définit l'ordre du tour, c'est la même chose.
C'est le truc qu'on distribue à tous les joueurs.
Ouais. Par contre, il n'y a pas plus de matériel, il n'y a pas de plateau ou autre.
Oui. D'accord.
Tout le reste est ce qu'on crée par le système de narration.
D'accord. Quoi d'autre?
Alors quoi d'autre? Bon, je vais pas parler d'Apocalypse World, tout le monde en a entendu parler, qu'on prépare pour...
Mais je me souvenais plus que c'était en projet ça. Ah ça c'est cool.
C'est pour septembre.
D'accord.
Septembre-octobre.
Tu peux en rappeler les grandes lignes?
Alors les grandes lignes, ça marche... Alors c'est un peu compliqué d'en parler. C'est un jeu qui a super bien marché aux États-Unis, qui est bien traduit et bien soutenu par mon traducteur, Greg Popor sur les forums.
Oui.
Voilà, un truc sympa, enfin un truc que j'aime bien, c'est un système de move, donc qu'on a traduit par coup, et qu'on est obligé d'appliquer, que ça soit autant au niveau des effets positifs que négatifs. C'est du classique. Donc, c'est-à-dire meneur et joueur.
Oui.
Les joueurs ont un personnage avec une fiche de personnage. Il est plus classique par cet aspect-là, la narration.
Oui.
C'est-à-dire on a vraiment un meneur et vraiment des joueurs.
Mais il n'y a pas de MJ tournant ou d'absence de MJ ou de trucs bizarres dans ce genre-là.
Par contre, il se dénote par le fait qu'il a des règles très contraignantes.
Ouais.
Du fait des coups qui t'obligent à avoir des conséquences précises à tes actions.
Ouais. Voilà. Est-ce que tu pourrais donner un petit exemple
Là, je ne l'ai pas en tête. Il faudrait avoir Greg sous la main.
Invente-en un move quelconque.
Alors là, non, je suis pas du tout dans. En ce moment, je suis pas du tout dans la relecture d'Apocalypse World. Je suis plutôt dans Perfect à fond.
D'accord.
Vu qu'on veut le sortir en priorité. J'avais la tête surtout à My Life with Master, et puis là, je suis passé à Perfect. Donc pour Perfect, je pourrais t'en sortir d'état parce que je suis à fond dedans. D'ailleurs, je suis ici pour masteriser du Perfect pendant toute la convention.
Oui.
Et Apocalypse World, je suis pas la tête dedans. Par contre, tu m'en reparles dans un mois, là, je suis à fond.
Ah, ok, intéressant, très bien.
Dans un mois, on en reparle et je te fais tout le pitch.
D'accord, ça marche, on peut faire ça. Alors, est-ce que il y a d'autres projets
Il y a d'autres projets dont je peux parler.
Oui.
A priori, il y a Superclic qui devrait sortir d'ici l'été, j'espère.
Superclic, alors ça, par exemple, je connais pas du tout.
En anglais, c'est Supercrew.
Ouais.
C'est un jeu de super-héros.
D'accord.
Hyper simple, qui est présenté sous forme de BD.
D'accord.
Toutes les règles sont sous forme de BD.
Ok.
Le principe, c'est que les personnages sont en train de jouer à un jeu de rôle. Et tout d'un coup, ils sont appelés. Parce que c'est en fait des super-héros. Et ils sont appelés au secours par la police ou par autre chose.
Ils doivent interrompre leur partie.
Ils doivent interrompre leur partie. Par contre, c'est des super-héros, quoi. Et là, leur identité est secrète, normalement.
Oui.
Donc déjà, ils doivent trouver une excuse pour partir de la table. Excusez-moi, je dois aller aux toilettes, j'ai une envie pressante. Et en fait, le gars, il va sortir, il va se dessaper, il va se transformer en super-héros. Et après, il y a l'aventure qui continue, il y a des règles
d'accord.
intéressantes. C'est un jeu très rapide. C'est 1 heure, 2 heures, 3 heures maxi.
D'accord.
C'est assez nerveux puisqu'on va tout de suite lancer les joueurs dans l'action. Quoi.
Oui, ok.
On va tout de suite leur dire, vous êtes autour de la table, on vous appelle parce qu'il y a un problème. Quoi. Et on va tout de suite les mettre dans l'action. Il y a un grand méchant qui est en train de cambrioler une banque. Qu'est-ce que vous faites quoi. Donc ça va être tout de suite dans l'action et tout de suite ils vont devoir résoudre ce qui se passe. Quoi.
D'accord.
Donc ça, c'est un petit jeu qu'on va sortir.
Mais en fait, les personnages entre eux ne savent pas qui...
Quand t'es un billet en super-héros, tu reconnais pas l'autre. Tu sais, grâce au petit masque que t'as sur le nez, personne ne te reconnaît. Donc.
Oui, c'est vrai. Ça fait partie du paradigme des jeux de super-héros.
C'est ça, tout à fait. Voilà, donc c'est un jeu sans prétention. Hein. C'est vraiment pour se faire des parties sur le pouce. Un peu comme On My Tissues, qui est vraiment un jeu sans prétention... Ouais, c'est pour se marrer. Tu veux passer 2 heures à te marrer parce que tu veux perdre ton temps à jouer, bizarrement. Voilà, tu sors ce jeu, pas de préparation. C'est
d'accord.
Nickel.
Et on y va, quoi.
Et on est parti.
D'accord.
Enfin, pas de préparation, il y a toujours une création de personnages.
Mm-hmm.
C'est comme On My Tissues, on parle de sans préparation, mais finalement, la préparation, elle est incluse au début de la partie où on prépare ensemble les personnages et la carte du monde. Donc là, c'est un peu la même chose. On va préparer, on va créer les personnages au début de la partie.
D'accord. Allez, encore d'autres
Qu'est-ce qu'il y a d'autre dont je peux... Ah ouais, il y a un truc sympa qui va sortir, dont je peux vous parler avec amour.
Ah ah.
C'est Cold City et Hot War, qui sortiront sûrement en décalé.
Oui.
C'est des jeux géniaux. Voilà. C'est eux qui m'ont donné envie de traduire des jeux indie.
Ah ouais, carrément. Et bizarrement, c'est pas par cela que t'as commencé
Parce qu'au début, j'ai pas réussi à avoir les droits. Mais j'avais un très bon contact avec les auteurs, avec l'auteur et l'illustrateur.
Mm-hmm.
J'ai même fait une interview dans mon ancien blog je les avais interviewés.
Mm-hmm.
J'avais beaucoup parlé de leur jeu parce que je trouvais ça. J'ai commencé par Hot War qui est le deuxième. Et pour moi c'était une tuerie quoi. Enfin, c'était la révélation. Alors vous allez peut-être être déçus, mais pour moi c'est la révélation. Cold City et Hot War marche un peu sur le même moteur de jeu. Il y a des petites différences. Je vais vous parler de Cold City puisque c'est le premier et je vais éviter les spoilers de Hot War. Cold City, ça se passe en 1956.
Oui.
Les Alliés ont gagné la guerre, basique.
Uh-huh.
On est à Berlin.
Oui.
Et on va jouer des membres d'une police de réserve, mais qui, sous son nom un peu. Qui peut faire penser que c'est une petite police de rien du tout. En fait, c'est une police où il y a beaucoup d'espions de tous les pays, donc de la France, de l'Angleterre, des États-Unis, de la Russie, etc., etc., qui traquent en fait tous les trucs paranormaux sur lesquels travaillaient les nazis. Bizarrement, les nazis travaillaient sur des choses vraiment très, très étranges, sur des technologies sombres.
Oui.
Et cette police de réserve, officieusement, traque cette technologie pour l'éradiquer, bien sûr. Mais chaque joueur va vouloir aider son pays, parce que ce qui est important, c'est que chaque joueur appartient à un pays différent et a donc des objectifs liés à son pays.
Ah,
qui sont peut-être pas les mêmes que les autres joueurs.
C'est un jeu à la paranoïa, c'est-à-dire on est censé jouer ensemble, mais en fait on a chacun des objectifs personnels.
Alors il y a des objectifs personnels, comme tu dis, oui. Mais aussi, et qui sont liés à ton personnage,
oui.
Et des objectifs de pays.
D'accord.
Donc ton pays il te demande quelque chose, et toi tu as peut-être un objectif personnel qui va à l'encontre.
Waouh.
Et après le système de jeu est pas si classique que ça, puisque tu vas pouvoir narrer des bouts de résolution, c'est-à-dire quand tu gagnes quand tu réussis ton action, tu vas pouvoir narrer ce qui se passe.
D'accord.
C'est pas le MJ qui narre ta réussite, c'est toi qui la narres.
En fonction du degré de réussite.
Non, c'est pas comme on Mighty Shoes. Donc là, c'est juste purement tu narres ta réussite. Moi, ce qui m'a beaucoup plu, c'est cet aspect chacun a ses objectifs. Bon, c'est l'univers aussi. Moi, j'adore les histoires. De sociétés secrètes, de technologies sombres, etc., etc.
D'accord.
Donc ça m'a beaucoup plu. Cette technologie sombre, c'est assez variée. Ça peut être des morts-vivants. Tu vois, des armées de surhommes morts-vivants. Ça peut être où on trafique un peu la génétique. Enfin, où ils touchent à la génétique, aux mutations, etc. Et ça peut être aussi lié à des... pas des univers parallèles, mais entre guillemets des portes vers l'enfer où t'as des démons qui sortent, quoi.
D'accord.
Donc l'émission, ça va être quoi? Ça va être il y a quelque chose de bizarre dans tel quartier. On a parlé d'un chien énorme et il faudrait que vous alliez enquêter
à
dessus.
Trois têtes.
Faudrait que vous alliez enquêter dessus et t'as les PJ qui partent faire l'enquête. T'as un PJ qui va vouloir que la créature ne meure pas, un autre qui veut qu'elle meure, un qui veut le ramener chez lui, etc., etc. Ils vont devoir quand même se...
Et
se
le dernier, en fait, c'est son chien, lui.
C'est ça. Donc voilà, ça c'est deux jeux qui me tiennent très à cœur. Je vais pas vous spoiler, Hot War. Ouais. C'est la suite.
Ah, c'est la suite directe du premier
ouais,
jeu.
Ça se passe 8 ans plus tard, je crois.
Ouais.
Et il s'est passé un truc.
Ah.
Donc ça, c'est pas mal. J'aime beaucoup cette ambiance post-Deuxième Guerre mondiale où il faut nettoyer derrière les Allemands, où il y a cette dualité, il faut que je bosse pour cette police de réserve, on a des supérieurs, etc. Mais il faut que je bosse pour mon pays, mais il faut que je bosse pour moi-même aussi. Donc ça, c'est assez sympa, ces niveaux différents d'objectifs qu'ont les personnages. C'est ce que j'aime bien quand je crée des pré-tirés, c'est ce que j'aime bien créer, c'est-à-dire une adversité entre les joueurs, même si elle est légère, quoi. Mais c'est peut-être un joueur veut faire ça, mais un autre préférerait que ça aille dans une autre direction. Comment les joueurs vont se dépatouiller de la situation, quoi.
Bon, eh bien, ma foi, merci beaucoup, Ludovic, pour ces nombreuses informations.
Mais de rien.
Et puis, eh bien, peut-être à bientôt pour de nouvelles news.
Mais pour vous parler un peu plus profondément d'Apocalypse Board,
oui, avec grand plaisir.
Sur lequel je suis pas très bon en ce moment et va falloir que je sois meilleur.
Tu te replonges dedans.
Que je me plonge dedans.
Merci, salut.
De rien. Au revoir.
Bonjour, Nico.
Bonjour.
Je vais donc te poser quelques questions un petit peu sur les différentes gammes du 7e cercle, pour savoir un petit peu où tout cela va. Alors, tout d'abord, j'aimerais savoir quand vont sortir les derniers suppléments Yggdrasil, puisque apparemment la gamme est bientôt close.
Alors, en fait, il y a un dernier supplément qui clôt la campagne, qui s'appelle Les Fils d'Alfdan.
D'accord.
Puisqu'on en arrive donc à découvrir le roi légitime,
mm-hmm.
Le fils du roi légitime que Frodi a gentiment étranglé et qui était son frère. Et on va donc entraîner les aventuriers, les PJ, donc à remettre ou pas ce roi sur le trône.
D'accord.
Voilà.
Et donc ce sera au libre choix des
voilà,
des
sous-titre
personnages.
C'est, il y a quelque chose de pourri au royaume du Danemark, mais c'est vraiment ça. Voilà. Ensuite,
d'accord.
Il y aura effectivement un autre supplément qui permettra aux PJ de jouer plutôt les enfants des PJ.
D'accord.
Et voilà, les descendants des PJ, puisque ça se passera quelque chose comme 20 ans après.
Oui.
Avec le roi Rolf Kraki.
D'accord.
Et la dernière grande bataille.
Ah oui, c'est le nom du supplément d'ailleurs, c'est ça.
Ça
Rolf
sera Rolf Kraki. Ah,
d'accord.
Voilà. Et qui clôt définitivement la gamme Yggdrasil.
D'accord,
voilà.
Très bien. Et donc, bâti sur le même modèle, il y a donc Keltia qui va sortir,
voilà.
Qui est donc cette fois-ci d'inspiration celte.
Alors, c'était un projet qu'on avait dès la création d'Yggdrasil.
D'accord.
Puisque c'est à peu près à la même époque. À peu près à la même époque. C'est pas tout à fait la même chose. C'est-à-dire, c'est pas tout à fait celte. C'est-à-dire que les populations celtes ont été en Grande-Bretagne,
oui.
Romanisées, ce qui n'était pas du tout le cas donc des populations de Scandinavie.
Oui, tout à fait. Oui.
Y avait, en Scandinavie, c'était un petit peu le problème d'ailleurs d'Yggdrasil. Il n'y a pas de route, il n'y a pas de ville, il n'y a pas de terme romain, il n'y a pas d'école, etc. On va reprendre qu'est-ce que les Romains nous ont apporté, mais c'est un peu ça.
Oui.
Et c'est, par contre, en Grande-Bretagne, qui donc est Britannia pour les Romains,
oui.
Ça a été relativement bien romanisé jusque, on va dire, au mur d'Antonin, puis au mur d'Adrien. Ça a un petit peu, oui, reculé. Donc, il y a quand même des structures romaines. Et le côté celtique des populations est plus resté dans le pays de Galles, qui était un petit peu résistant tout de même,
oui,
et le Grand Nord.
D'accord.
Il se trouve qu'en vers 410, pour donner une date, c'est pas tout à fait ça, mais vers 410, Rome ayant beaucoup de problèmes avec les invasions, dit gentiment à la Grande-Bretagne, enfin à la Britannia, de se démerder toute seule avec ses propres invasions. Pictes, les pirates irlandais, et puis quelques pirates saxons, mais il y a déjà des saxons installés et de façon pacifique en Grande-Bretagne.
D'accord.
À ce moment-là,
il y a un mélange culturel qui est beaucoup plus grand, en fait.
Oui, et on ne peut plus vraiment parler de... On va dire, ce n'est pas légende celtique. Légende, oui, celtique, c'est plutôt avant... ou juste au moment de l'invasion romaine.
Oui, d'accord.
Bon, okay. Sachant que l'Irlande a quand même gardé un côté celtique très fort, puisqu'ils n'ont pas été romanisés. Voilà. Donc là, on arrive dans une Grande-Bretagne qui a été romanisée et qui, soudain, perd à la fois l'occupant, mais également l'administrateur, également, oui, la monnaie, également le commerce, également tout ça. Qu'est-ce qui se passe ? Les chefs de clans, qui ont été clients des Romains, vont se bousculer. D'abord parce qu'il faut bien qu'il y en ait un qui prenne un petit peu la tête des opérations, et parce qu'il y a des envahisseurs partout, il n'y a plus d'administration centrale, il n'y a plus de monnaie, il n'y a plus rien. Voilà. Donc c'est panique à bord. Et à ce moment-là, un roi dont on ne connaît pas vraiment le nom, qu'on appelle le grand roi, Vortigern, va avoir l'excellente idée de demander à quelques Saxons du coin de venir l'aider à se battre contre les Pictes. Et quand ils vont monter leurs exigences, il va dire non, c'est pas possible. Et les Saxons vont dire, dans ce cas-là, on prend du territoire. Voilà, c'est dans cette grande Bretagne-là qu'on appelle de son nom celtique Innisfriden, que va apparaître de façon mythique le fameux roi Arthur.
D'accord.
Voilà.
D'accord.
On a repris les légendes de base.
Et donc ça se situe à cette période charnière
Alors on commence, nous, ça se situe donc au 5e siècle. Et nous, on commence la campagne, puisque ce sera comme Yggdrasil, il y a une campagne qui accompagne, qui est logique, en 85, exactement. Voilà.
D'accord, d'accord. Alors sur le développement de la gamme, ce sera comme Yggdrasil, c'est-à-dire le fil de la campagne plus quelques...
Oui, il va y avoir la campagne va se suivre dans tous les suppléments.
Oui.
Comme Yggdrasil. La seule différence avec Yggdrasil, c'est que Keltia est bisystème, c'est-à-dire que il a le système Yggdrasil qui est à l'intérieur du livre, c'est pas un supplément Yggdrasil, hein. Un jeu à part entière.
Oui.
Mais également, on l'a doublé avec le système Fantasy Craft. C'est-à-dire que les gens qui ont acheté Fantasy Craft, qui est une base de 3.5, de D&D 3.5, vont pouvoir jouer à Keltia, et ça fournira également donc un background à Fantasy Craft qui n'en a pas, qui est un système de règles.
D'accord.
Voilà.
D'accord.
Donc les gens qui ont joué avec Yggdrasil, qui connaissent les règles d'Yggdrasil, et qui préfèrent jouer avec des règles un peu plus simples, on va dire, peuvent continuer parfaitement à jouer avec les règles d'Yggdrasil, sachant qu'il y a quand même des classes différentes, des prêts tirés différents, etc. Mais ceux qui veulent jouer avec un système D20 peuvent utiliser Fantasy Craft.
D'accord. Mais est-ce que ce changement de système, ça induit pas aussi finalement une sorte de changement de paradigme ou de niveau de puissance ou de
Alors,
dangerosité ou...
On a demandé à un spécialiste de Fantasy Craft qui nous avait aidé sur la correction des errata,
oui,
Nicolas Feld, qui transférer les données sur du Fantasy Craft. Donc non, je pense pas. on peut faire la même intensité de... C'est quand même pas du gros bill, quoi.
Oui, d'accord.
Voilà. On peut pas monter de façon énorme dans le... Encore que à la fin c'est des héros dès le départ. Voilà. Donc comme dans Yggdrasil.
D'accord. Ok.
Voilà. Aussi, il faut voir que quand on a fait le système de magie, on l'a conçu. Donc, il va se gérer comme Yggdrasil. Ça sera l'équivalent du Cypher. C'est la sorcellerie. Enfin, l'équivalent. Mais on l'a conçu en prenant les sorts de Fantasy Craft et en les travaillant pour les rendre identiques à ceux d'Yggdrasil. Enfin, compatibles avec ceux d'Yggdrasil. Donc, au niveau de la magie, ça va être très, très facile à gérer.
D'accord.
Voilà.
Alors maintenant, il y a également Z-Corp dont j'aimerais bien connaître que va-t-il se passer ensuite dans cette gamme.
Alors dans cette gamme, il y a deux suppléments qui vont arriver et qui sont constitués de finalement de la résolution de la storyline.
D'accord.
Et de la campagne. La campagne sera en les deux prochains suppléments.
D'accord. Voilà. Ah oui, et donc après la gamme se terminera comme ça.
Et je ne vais pas dévoiler la fin de la storyline parce que ce serait dommage quand même, mais oui. On propose deux fins alternatives.
D'accord. Et ce, à la fois pour des Z-Corp ou pour des survivants.
Oui, tout à fait.
D'accord. Ouais. Aussi, autre chose, il me semble, franchement, je suis plus sûr. Que les résultats des parties des joueurs pouvaient influencer la storyline.
Alors, on avait mis ça effectivement au départ.
Ouais.
Il se trouve que la plupart des gens sont sur survivants. Donc,
d'accord.
On a tenu compte de ce que demandaient sur forum les gens qui jouaient survivants.
Ouais.
Ils demandaient par exemple de la gestion de groupes, de ressources, etc. qu'on a mis donc dans UDOA.
Pour faire du Walking Dead en fait.
Voilà, il y a beaucoup de gens qui font du Walking Dead. Bon. C'est vrai que pour les Z-Corps, pour l'instant, c'est une minorité qui joue à Z-Corps. Donc on n'a pas vraiment. On suit notre storyline de base pour Z-Corps.
D'accord.
Voilà. Okay. Mais les survivants, c'est vrai qu'on en a tenu compte sur les deux suppléments 8 semaines plus tard et UDOA. Et on continuera de toute façon, en lisant ce que les gens demandent sur les forums, les mails qu'on reçoit, à répercuter les demandes. Si elles sont raisonnables, bien sûr. Et si elles vont dans la storyline, bien sûr.
Ah, et Cthulhu.
Ben, on vient de faire la réédition du livre de base,
oui.
Qui s'était épuisé en un an. Donc, on avait, comme on avait beaucoup d'autres choses à sortir, on ne l'avait pas ressorti tout de suite. Et donc, on l'a ressorti là, avec une nouvelle couverture.
Oui, en dur.
Voilà. On a remis, on a mis quelques pages supplémentaires, hein, qui étaient des actions supplémentaires de combat, qui étaient piochées dans Réseau Terroriste Factbook, qui n'avait pas été traduit. Bien entendu, on a mis que ce qui convenait aux années 30.
Ouais.
Voilà, au niveau armement, etc. C'est pas, on n'a pas mis des choses contemporaines dans le Cthulhu. Et sort, ça part la semaine prochaine chez l'imprimeur, Les Mystères de Londres, qui correspondent à Bookends of London, traduit, etc. Avec beaucoup de cartes pour pouvoir se diriger dans Londres.
D'accord.
Voilà. Par la suite, on a le Liber Fumo, The Book of Smoke, qui était un petit livre qui accompagnait Bookends.
Liber Fumo.
Ouais. Ça se dit comme ça, je crois. Qui était distribué donc avec ou à part de Bookends of London en anglais, et qui en fait est un petit, on dirait un petit livre, un petit guide du Londres occulte. Hein. C'est pas énorme, il doit y avoir une cinquantaine de pages, je crois. Et en fait, il y a un petit mystère dedans, c'est-à-dire qui a tué l'auteur du livre. Voilà. Et c'est un accompagnement très sympathique au mystère de Londres.
D'accord.
Voilà. Et ça sortira après.
Ah, en fait, tu peux. C'est une enquête sur sur le support lui-même.
Voilà, hein. Tout à fait.
Comment dire, c'est destiné aux joueurs ou c'est plus pour celui qui lit le bouquin
Tu peux même le faire en tant que... Enfin, je ne vais pas dire le livre dont vous êtes le héros, hein, mais c'est pas du tout... Il n'y a pas du tout de choses chiffrées, c'est plutôt de la lecture pure.
D'accord.
Mais,
C'est un petit truc pour le MJ, pour lui faire lire le livre.
Alors, ça peut être une source de renseignements sur certaines spécificités occultes de Londres.
Oui.
Puisqu'il y avait quand même au 19e siècle une énorme communauté... occulte, hein, enfin entre la théosophie, etc. Mais en même temps, On peut le lire seul, comme ça, comme un livre avec une espèce de devinette, on va dire.
D'accord.
À la fin. D'accord. C'est très intéressant.
Et la réponse est incluse ou
Non.
Non.
Non. Et on le dira pas.
Ou alors tu vends juste des cartes de visite où il y a la solution.
Ou alors on le crypte dans le texte. Mais on avait fait un truc comme ça avec Cult et personne ne l'avait vu.
Ah oui.
Oui, tout à fait. On avait mis des révélations cryptées dans le texte du livre de base.
D'accord. Donc là, il y a deux gammes qui vont s'arrêter. Il y en a une qui va commencer. Donc ça signifie qu'il y a une place pour quelque chose d'autre.
Il y a une place pour pas mal de choses. On attend toujours les textes de Fading Suns version 3.
Ah mais oui, c'est vrai, Fading Suns.
Parce qu'en fait, c'est très compliqué. C'est une licence qui appartient à Holistic Design. Oui. Et c'est Redbrick qui travaille dessus. Donc Redbrick, chaque fois qu'il fait un paragraphe, doit demander l'accord d'Holistic Design. J'exagère un peu, un chapitre, on va dire. Mm-hmm. Et comme ce sont les auteurs Holistic Design, ils sont très pointus sur ce qu'ils veulent sur la V3. Ça met pas mal de temps à se décider.
D'accord.
Voilà.
Par rapport à la précédente édition française, ce sera basé sur la même édition du livre de base VO ou ce sera celle d'après?
Alors en fait, on va retrouver certaines choses, par exemple la présentation des différentes familles, etc., oui. La présentation de ce qu'on peut jouer, mais il y a une avancée dans la storyline.
D'accord.
Voilà.
Okay.
Ah non, c'est...
D'ailleurs, qu'est-ce qui se passe dans la storyline de...
Oh, bah, tu ne penses pas quand même que je puisse le dire là, non?
Ah, d'accord. Mais si c'est dans le livre de base et que c'est présenté aux joueurs...
Plein de choses. Non,
d'accord,
je te dirai rien.
D'accord, ok. Bon. Oh, j'aurais essayé.
Tu as essayé, mais non. Non.
Et donc, le système est fourni avec ou ce sera du homemade?
De Fading Suns?
Oui, oui.
Ah non, c'est Redbrick qui le fait.
Ah, d'accord,
c'est la même
okay.
version, mais qu'ils ont un petit peu, on va dire, amélioré, débugué, etc.
Mm-hmm.
Parce
d'accord.
qu'il était un petit peu,
un peu bancal,
paraît-il, pour certains, difficile à utiliser. Enfin, moi, j'ai toujours joué à Fading Suns sans problème, mais bon, c'était pas super fluide non plus, il faut bien le reconnaître.
D'accord, ok.
C'est le problème un peu des jeux qui ont 20 ans d'existence. Au bout d'un moment, il faut le remettre un peu au goût du jour et alléger certaines choses. Voilà. Mais les gens qui ont utilisé l'ancienne version ne seront pas complètement perdus non plus.
D'accord. Et donc, ça, c'est pour quand?
Ah, j'aimerais bien le savoir. parce qu'en fait, je dois refaire une grande partie des illustrations. Parce que nous n'avons pas les mêmes exigences, nous autres Français, sur les illustrations au moins de la couverture, etc.
C'est heureux souvent par rapport au VLAO.
Et souvent c'est heureux. La maquette, c'est pareil. Je n'ai pas du tout l'intention de refaire la même maquette que celle de base. Je sais que ce sera deux gros bouquins de 350 pages chacun.
Quelques autres projets
Alors on en a plein. Il y en a plusieurs qui ne sont pas signés. Il y en a un qu'on peut annoncer. Alors, j'ai pas le titre définitif en français. C'est le Knight's Black Agent de chez Pellegrin, qui est toujours avec un système Gumshoe.
Oui.
Et donc, pour présenter, selon ce que dit l'auteur, c'est Jason Bourne qui se retrouve un jour à se rendre compte qu'en tant que mercenaire, il a travaillé pour des vampires.
D'accord.
Voilà. Et c'est un projet que j'aime beaucoup parce que c'est assez, assez différent. C'est,
donc, c'est mi-espionnage, mi-vampire.
Ouais.
D'accord, ok.
Voilà, et on ne joue pas les vampires. Alors, c'est vrai qu'il y a un petit encart où, et si vous voulez jouer des vampires, l'auteur le déconseille quand même.
Ouais,
voilà.
Parce que c'est plus intéressant
c'est
de jouer...
C'est plus intéressant de faire la découverte de ce qu'il y a derrière, de ce pourquoi on a travaillé pendant des années, sans savoir ce que ça recèle exactement.
Oui, parce qu'a priori, si on est vampire, on connaît déjà la structure du truc dans lequel on est.
Il n'y a plus trop de secrets.
D'accord, voilà. Ok.
Ça, c'est un premier, donc il est en cours de traduction.
Oui.
Et ensuite, on sort un jeu qui va s'appeler... Alors, ça sera en fin d'année. C'est une exclusivité pour toi.
Waouh, classe.
Parce qu'on l'a... Je ne sais pas où il en est exactement. C'est un jeu qui est traduit de l'espagnol.
Ouais.
Puisqu'on a plusieurs de nos jeux qui sont traduits. Certains aux États-Unis et d'autres en Espagne.
Oui.
Yggdrasil est traduit en espagnol. Z-Corp sort en espagnol en septembre.
D'accord.
Et aux États-Unis, c'est Crafty Games qui va s'y coller pour Z-Corps et les Contes Ensorcelés.
D'accord.
Yggdrasil et Kuro sortent chez Cubicle 7. Et là, donc, pour ben, quand même faire un petit peu un retour, on est tombé sur les illustrations de Jérusalem 1119, qui est un jeu donc sur les croisades.
D'accord.
Voilà, et ce sera le même illustrateur que Keltia. Et donc, on est un petit peu sur le projet. Je sais que le système, ce sera un BRP. Mmh. Et que ça va englober, ça va commencer à la fin de la première, à la première croisade, et ça va se poursuivre donc avec une gamme fermée, puisque les Espagnols ont beaucoup apprécié Yggdrasil et veulent continuer à travailler dans ce système-là.
D'accord.
Voilà, c'est pas le système Yggdrasil, mais sur les gammes fermées, ils trouvent ça plutôt intéressant.
D'accord. Ok. Voilà. Ah, cool.
Voilà. C'est après on a deux ou trois petits jeux également en stand-alone qu'on va intercaler, dont un je pense sur un steampunk à Venise.
D'accord.
Qui a été travaillé par les studios Dead Crows.
Ah, très bien.
Et qui n'a pas de titre définitif non plus, qui est prêt pourtant.
D'accord.
Et donc, il va partir à l'illustration incessamment sous peu. Et ce sera le même illustrateur que Keltia.
D'accord. Merci beaucoup, Neko.
Je t'en prie, merci à toi.
Ciao. Alors, bonjour, Nedzak.
Bonjour.
Nedzak, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu les divers jeux des ludopathes?
Alors, les divers jeux des ludopathes. Eh ben, pour commencer, il y a Manga no Dentetsu.
Ouais.
Qui est un jeu donc, qui traite des mangas, comme son nom l'indique. Et qui permet en fait de jouer des personnages de manga qui se retrouvent du jour au lendemain propulsés dans le monde réel, sans D'accord. savoir pourquoi.
C'est ça un peu le pitch du jeu finalement.
C'est ça, c'est vraiment ça. Quoi. Les joueurs ne savent pas du tout pourquoi leur personnage se retrouve dans le monde réel.
Mm-hmm.
Et du coup, ils doivent s'habituer à vivre parmi les humains sans. Ouais. Enfin, à gérer avec leur pouvoir, leur.
D'accord.
Il y a des robots, il y a tout un tas de.
Oui, de... donc des chevaliers du zodiaque.
Exactement, qui se retrouvent. Voilà, vraiment.
Naruto.
Voilà, et du coup, tout ce petit monde doit cohabiter, donc avec forcément des aspirations différentes, des. Enfin, voilà, ils ont tous leurs propres objectifs.
Ouais.
Et forcément, commencent à se produire des clashs, des choses comme ça. Et...
Mais alors, du coup, ils sont complètement extraits de leur univers habituel.
C'est ça, oui. Ils sont complètement dépaysés, du coup.
ils sont tout perdus.
Ils sont tout perdus. Et de fait, donc il y a certains fans de manga, des otaku, qui leur viennent en aide, comme ils peuvent, qui les hébergent, qui les aident à s'intégrer.
Ouais.
Et donc les joueurs doivent composer avec tout ça et se débrouiller comme ils peuvent pour soit devenir des héros.
Ouais.
Son Goku par exemple.
Uh-huh. Ah oui, oui, ça.
Prototype du héros par exemple. Donc un joueur qui joue Son Goku va continuer à mener des actions héroïques bien sûr.
D'accord, parce que le fait qu'ils aient été extraits de leur univers, ça leur enlève pas leur super
pouvoir. Voilà, c'est ça, ça enlève absolument pas leur pouvoir, ni leur façon de penser, ni ça change absolument rien à ce qu'ils sont.
Mais du coup, est-ce qu'ils ne se retrouvent pas sans adversaire finalement?
Eh bien, non, parce que on dit les personnages de manga, mais ça peut...
tous, même tous, les méchants.
Voilà, ça, et on sait pas exactement ce qui s'est passé, mais donc une campagne qui est proposée dans l'un des deux livres qui compose le jeu,
ouais.
Qui va justement les mettre aux prises avec un adversaire qui pourrait bien être à l'origine de ce
phénomène.
Voilà, exactement.
D'accord. Mais alors, ça veut dire qu'il préexiste sur la Terre
Justement, ça fait partie des petits mystères à découvrir en jouant au jeu.
D'accord, ok. Voilà, et donc quel va être le développement de cette gamme? Parce que là, donc il y a deux livres, le tome 0, tome 1.
Exactement, donc le livre du joueur et le livre du meneur. Et il y a encore un tome qui est prévu qui va donc donner les secrets de l'univers et poursuivre la campagne qui a été amorcée, si je ne dis pas de bêtises.
D'accord. Et la gamme sera close en trois volumes?
C'est ça, elle sera
d'accord.
Close.
Ah, ok.
Voilà,
d'accord,
tout est disponible dans les... Enfin, pour jouer, tout est disponible dans les livres qui sont déjà disponibles.
Ouais.
Donc, dedans, on trouve des écrans du joueur. Parce qu'il faut savoir que MND, les joueurs, donc, ont leurs propres petits écrans sur lesquels ils peuvent donc dessiner leurs personnages.
ouais.
Et mettre les informations utiles côté...
Côté PJ, enfin de leur côté.
De leur côté, il y a les informations secrètes de leur personnage et ils peuvent mm-hmm. mettre un dessin de leur personnage et des informations utiles pour les autres joueurs de l'autre côté de l'écran.
Mais du coup, y a-t-il réellement des informations secrètes étant donné que le lecteur du manga, lui, connaît déjà tous les défauts du personnage?
Ben oui, parce que MND permet également de créer des personnages qui sont issus d'un manga complètement imaginaire. On n'est pas obligé de jouer un personnage d'un manga déjà existant dans notre monde à nous. Et on peut créer exactement ce qu'on veut.
Alors oui, bien sûr, mais à partir du moment où tu crées ce personnage, ça signifie que sur Terre, quelque part, il y a quelqu'un qui connaît tous les défauts du personnage.
Oui, bien sûr, mais pas les autres personnages qui eux-mêmes sont issus d'autres mangas.
Non, en effet.
Donc ils ne sont pas censés forcément savoir.
Parce que sinon, il suffit qu'ils aillent dans la bibliothèque la plus proche. je vais connaître tous ces points faibles.
Oui, c'est vrai que c'est une possibilité, mais dans l'absolu, ils ne sont pas censés savoir. Ils sont censés ne pas connaître les autres personnages, à moins qu'ils soient issus du même manga.
Ah oui, d'accord. Alors, donc, c'est tout pour cette gamme, puisque donc, tu me disais elle est close en 3 volumes. Alors, qu'est-ce que tu peux nous présenter d'autre? Par exemple, Aventure dans le monde intérieur.
Alors, Aventure dans le monde intérieur, c'est un jeu qui reprend le mythe de la Terre creuse.
Ouais.
Donc, c'est un jeu, qui se base en grande partie sur les écrits de Jules Verne,
ouais.
Enfin, au moins dans l'idée,
mm-hmm.
et qui permet aux joueurs d'incarner des membres d'un club qui s'appelle le Club Arcadia,
mm-hmm.
qui justement tente de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour faire avancer les découvertes concernant ce monde intérieur.
Le monde antérieur en question, il est connu du grand public
Alors, du grand public, pas vraiment. C'est pas
parce que
plus...
ça peut représenter, c'est juste une destination exotique où les gens n'iront jamais.
Non, clairement, c'est quelque chose d'assez secret quand même, d'assez mystérieux justement,
d'accord.
D'assez dangereux surtout.
Mm-hmm.
Puisqu'on y trouve quand même beaucoup de bêtes féroces,
de tribus cannibales.
Autre chose. Donc de fait, non, c'est pas une destination de vacances.
Alors qu'est-ce qu'on peut, joue finalement? Des gentlemen.
C'est ça. Voilà, on joue des gentlemen explorateurs.
Ouais.
Qui sont recrutés par le Club Arcadia justement pour explorer
ce monde. Et en fait, ils l'explorent dans quel but? L'exploiter, le cartographier. En tirer des récits seront publiés en feuilleton dans les journaux populaires.
Ça dépend. Enfin, l'idée première, c'est d'aider finalement au développement de l'humanité en
ouais.
découvrant des choses dans ce monde.
Mm-hmm.
Maintenant, il est clair que tout le monde peut avoir ses propres objectifs. Donc, si quelqu'un décide d'aller visiter ce monde-là pour ses propres pour ses intérêts personnels, ça reste possible, bien sûr.
D'accord. Ok.
Des particularités du jeu aussi, c'est qu'on peut monter sa propre expédition. Donc avec la gestion de son matériel, de son équipe, tout ça, c'est un système dédié en fait, rien que pour ça, qui est vraiment sympathique et assez original pour le coup.
Ah oui, donc tu dois déterminer alors 10 caisses de nourriture,
gérer le moral, ce genre de choses, s'arranger pour que l'expédition ne devienne pas un fiasco en fait.
Ah oui, en fait il n'y a pas que les personnages, il y a aussi des PNJ dans l'expédition.
Bon, a priori ce sont juste des petits personnages un peu mineurs, sans intérêt, mais on peut très bien voilà, choisir un capitaine par exemple avec une personnalité qui va lui-même avoir de l'influence sur le...
D'accord.
Tout un système vraiment, vraiment sympathique.
Alors quel est un peu le développement de cette gamme? Là, il est sorti un
alors
petit
le
supplément,
livre
j'ai
de...
vu.
Alors ce que tu as vu tout à l'heure, c'était un tout petit livret collector qu'on a fait pour les fans du jeu.
Ouais. Il y a un supplément aussi.
Alors,
qui est sorti il y a pas très longtemps.
Il y a donc outre le livre de base, il y a eu un premier almanach arcadien qui est donc
ouais.
un supplément qui rajoute des éléments d'univers, et il y a un deuxième almanach arcadien qui s'apprête à sortir.
D'accord.
Qui va te donner des règles sur la magie. Il ne faut pas imaginer des boules de feu, des choses hyper spectaculaires, mais ça va donner ouais, quelques éléments sur la magie gérée dans le monde intérieur.
D'accord. Mais ce sera plutôt de quel type, cette magie?
C'est une magie plutôt, comment dire,
des malédictions, des trucs comme ça, genre vaudou,
un peu plus, peut-être un peu plus, comment dire,
plus fun, plus spectaculaire, plus
pas vraiment plus spectaculaire, ça reste quelque chose d'assez discret finalement, mais
sinon donc autre gamme autre gamme Shade, un excellent jeu que j'ai eu l'occasion de tester dans l'un des anciens numéros de Radio Rollist. Donc là, il est paru le gros coffret.
Le coffret Confidenza qui est sorti à la fin de l'année dernière, mm-hmm. Qui contient donc qui contient beaucoup de choses en fait.
Oui, il y a pas mal de secrets de l'univers.
Il y a quelques petits secrets qui sont, enfin quelques petits secrets, quelques petites pistes pour ne pas aller à l'encontre de la storyline prévue qui sont données. Mm-hmm. Pour le coup, c'est vraiment utile au meneur qui voudrait mener en campagne et qui a peur de sortir du cadre du jeu. Il y a trois scénarios,
oui.
Trois excellents scénarios même. Une foule de PNJ. C'est vraiment utile quand on a besoin d'improviser un PNJ. Il y a une foule de PNJ qui sont donnés.
Oui, classés par à la fois par niveau et par genre.
Et par genre, voilà. Et c'est pour le coup, c'est vraiment vraiment très utile. Ouais.
Et donc, alors moi, ce que j'attends, c'est la suite. C'est Rivelazioni.
Rivelazioni, oui. Rivelazioni donc est prévu pour donc initialement était prévu pour la fin de cette année.
Ouais.
Je sais pas si ce sera le cas. Ou...
Ah oui, c'est vrai, c'est ça.
Bah, c'est comme tout. Hein. On connaît le milieu, on sait très bien que ça sort rarement aux dates prévues. Donc je ne vais pas m'avancer sur une date précise.
D'accord.
Je dirais fin de l'année, l'année prochaine.
Au début de l'année
ça,
prochaine.
Ça arrive, c'est sûr.
D'accord.
En attendant, il va y avoir deux sur, voire trois autres Confidenza.
D'accord.
Qui vont contenir donc, beaucoup de matos pour le meneur, principalement des scénarios.
Et ces Confidenza, eux par contre, ils vont paraître avant.
Ils vont paraître avant Rivelazioni.
D'accord.
Ça permet en fait de faire vivre le premier chapitre de l'univers, si on va appeler ça comme ça.
D'accord.
Puisque le livre de base de Shade qui est sorti,
oui.
Donc la Danza delle Ombre,
mm-hmm.
Ça constitue presque, comment dire, même si c'est le premier tome. Du jeu,
oui.
C'est quand même un jeu à part entière, et Rivelazioni en sera un autre d'une certaine façon. C'est difficile d'expliquer sans en dévoiler trop, mais...
Tu me confiais tout à l'heure que ce serait finalement une sorte d'autre niveau de jeu.
Oui, c'est ce que je disais, oui, c'est comme si en fait, avec la Danza delle Ombre, on jouait de simples mortels, entre guillemets,
oui.
Un peu plus, puisque les personnages ont quelques pouvoirs, en fait, ont des ombres qui sont vivantes.
Mmh.
Mais il en reste pas moins que ça reste des humains qui jouent du coup à un niveau disons,
oui, ils restent humains,
ils restent humains, voilà. Et on va dire que dans Rivelazioni, on va leur donner les moyens aux joueurs de faire passer leur personnage à un stade supérieur et de fait de jouer à un niveau où les enjeux sont beaucoup plus importants que juste politique ou même des histoires de
famille. En gros, ça va poutrer quoi.
C'est ça, c'est ça. Ça va envoyer du lourd.
D'accord, très bien. C'est tout ce qu'on connaît un peu sur le développement de la gamme, ou alors il y a déjà des choses qui sont prévues pour l'avenir.
En fait, a priori, donc en dehors du quatrième Confidenza qui reste pour l'instant hypothétique.
Oui.
On essaye de sortir régulièrement des suppléments gratuits en PDF.
Oui.
Des cahiers donc, des cahiers de Shade.
Oui.
Donc pour le coup c'est moi qui
J'en ai il y en a un qui est d'ailleurs le
il y en a deux qui sont sortis trois qui sont sortis et je m'occupe du quatrième en ce moment.
D'accord. Il y a je crois que j'ai lu le premier qui est d'ailleurs super important, il faut vraiment l'avoir lu.
Ouais, le premier en fait c'était un, ça aurait dû être dans le livre de base,
ouais. Hein,
pour des questions de délai, on n'a pas pu le sortir dans le livre de base, donc de fait c'est disponible gratuitement en PDF.
Ouais. Et c'est notamment tout ce qui permet d'interpréter les ombres et leurs relations avec le personnage.
C'est ça,
et c'est
vraiment donner une vraie personnalité aux ombres.
Ouais, ouais, tout à fait, ce bouquin est vraiment super, super intéressant. Voilà.
Donc le deuxième cahier, c'est un scénario de convention. Le cahier numéro 3, c'est des scénarios plutôt d'initiation, on va dire. Et le cahier numéro 4, si tout se passe bien, va plus porter sur l'art de l'escrime.
D'accord.
Je suis en train de m'en occuper, donc
on va essayer de
donner des nouvelles écoles d'escrime.
Ouais.
un petit récapitulatif de l'escrime ancienne en fait.
Mm-hmm.
Des pistes pour permettre de vraiment donner des, de vraiment donner les vrais noms des passes d'armes ou des choses comme ça.
D'accord. Avec des feintes en sixte et des trucs comme ça.
Les parades, tout ce que tu veux, des cartes, des octaves, mm-hmm. tout ça. Et si possible, un scénario en rapport avec le thème.
Mais, d'accord.
Donc voilà, pour l'instant, pareil, c'est en cours. Je sais pas trop, vu que c'est du supplément gratuit, c'est quand même quelque chose qu'on fait à côté. Donc ça reste. On est soumis aux aléas de la vie courante et,
d'accord.
et nos emplois du temps respectifs.
D'accord, très bien. Bah écoute, merci Nedzak.
Mais de rien.
Et puis voilà, bah, rendez-vous autour d'une table de jeu.
Bah voilà.
Alors Brand, bonjour.
Salut Cobal.
Donc tu es à Rennes pour présenter le premier jeu de ta maison d'édition Lapin Marteau.
Exactement.
Donc un jeu qui s'appelle Guts. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus?
Alors tout à fait. Guts, c'est un jeu qui en fait... se passe dans un monde qui pourrait ressembler à nos années 40.
D'accord.
Où on incarne des pilotes dans une on va dire dans une cité, dans une civilisation en gros qui vit sur des rochers volants au niveau des nuages. Donc assez proche de ce qu'on peut trouver dans des dessins animés comme Last Exile, certains Miyazaki, Porco Rosso pour l'aviation, etc. Plus mm-hmm. un thème très très action où l'important c'est d'avoir la plus grosse. C'est d'y aller à fond, c'est assez freudien comme jeu, et qu'on pourrait rapprocher peut-être de Sucker Punch, des têtes brûlées, du Rocket Tear.
D'accord.
Quelque chose qui est tout à fait dans la retenue et le calme, quoi.
D'accord. Alors, et sur l'univers lui-même, comment est-ce que ça s'articule? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'on joue exactement?
On joue un groupe de personnes qui savent piloter.
Oui.
Dans le sens où le fait d'être pilote n'est pas forcément leur profession et leur occupation première.
Oui.
Par contre, comme tout le monde vit dans le ciel, c'est quelque chose qui est plutôt pratique.
Mm-hmm.
Et un peu comme à la façon d'autres jeux, on va commencer à créer un groupe et on va définir l'essentiel de la campagne. Il y a une seule chose qui est établie. Il y a une espèce d'énorme guerre mondiale dans le ciel. Et
oui.
À la fin de la campagne, les PJ causeront la fin de la guerre. Quand j'y causeront, c'est que ça peut être volontaire, involontaire. Ça peut être les conséquences de leurs actions et eux ne seront plus là pour le voir. Ça peut être une réussite totale. Ça dépend de ce que veulent faire, en fait. Une seule chose est sûre, c'est cette guerre depuis trop longtemps. Et les PJ vont l'arrêter. Les PJ changent le monde. Ils n'ont pas le choix. Tant pis pour eux.
D'accord. Ok. C'est le principe du jeu.
C'est le principe du jeu.
D'accord. Que c'est axé autour du combat aérien.
Le combat aérien prend bien sûr une grosse part du jeu.
Mm-hmm.
Le système est fait pour que vraiment ça bouge. Il est très axé, on va dire, sur les descriptions. C'est pas trop un système technique dans le sens où vous allez pas avoir un plus 3 ou un moins 2 parce que vous faites un looping.
Oui.
Par contre, vous allez décrire la façon dont votre pilote part en piqué, essaye de stabiliser à la même vitesse que son pote qui est en train de se taper avec un type en jetpack dans son bombardier, va ouvrir sa verrière, essayer d'aligner avec son arme de poing, de tirer pile dans l'espèce d'interstice qui permet de respirer entre les trous de la verrière justement,
uh-huh.
et essayer d'abattre dans le jetpack afin qu'il explose ou qu'il perde le contrôle la personne qui a abordé le bombardier de son pote.
D'accord.
Je suis pas sûr que ce soit très clair, mais des fois en jeu c'est pas très clair.
c'est un petit côté wushu comme ça.
Exactement, c'est très très proche de Wushu sur l'importance de la description. Par contre, il y a beaucoup plus d'options, c'est beaucoup plus cadré. Là, Wushu est finalement assez minimaliste.
Oui.
Là, il y a aussi la volonté en fait d'encadrer tout ça et de proposer beaucoup plus de choses que peuvent apporter les joueurs. Je parlais tout à l'heure de la création de groupe, il y a d'autres éléments, par exemple au niveau de la description de l'univers, du background.
Oui.
Les PJ peuvent, en fait, le background du jeu est un peu comme un puzzle. Et les PJ pour la campagne vont choisir les pièces qu'ils assemblent. Et ils vont dire au MJ, je voudrais qu'on aborde tel sujet, enfin tel, techniquement ça s'appelle des secrets, on prend telle pièce. Et pendant le jeu, par exemple, les PJ vont pouvoir choisir d'utiliser leur expérience dans les secrets. Et dire, donc obtenir quelques capacités ou quelques avantages, quelques contacts, de l'équipement, enfin peu importe. Par l'activation de secret, mais surtout ils disent au meneur, nous le prochain scénario on veut que ça aille dans ce sens là, que ça parle de ça, tu nous surprends, tu nous fais comme d'habitude, tu fais qu'on s'amuse, Par contre, amuse-nous en incluant ce truc-là, s'il te plaît. Plus pas mal d'autres éléments liés à la coopération, liés au fait de toujours relancer l'action, etc.
Sur les mécanismes, peut-être, sur le point de vue technique, qu'est-ce que c'est le système?
Alors,
comment ça se compile?
Comme je disais, c'est un jeu qui est assez freudien, où le principe, c'est vraiment d'avoir la plus grosse.
Oui.
Et c'est aussi la plus grosse brouette de dés. C'est un jeu où on lance énormément de dés. Mmh. C'est un jeu de sale gosse. C'est un jeu où on fait tout ce qu'on nous a dit que c'était pas bien. Et par contre, ceux qui ont joué par exemple à Star Wars D6 à l'époque se souviendront souvent de façon émue de tous les calculs faits à 3h du matin pour savoir comment ça se passait avec vos 15 dés en sabre laser. Mais ils se souviendront sans doute aussi que c'est quand même vachement grave d'avoir 15 dés en sabre laser. Et si on pouvait en avoir 38, ce serait pas mal. Et si on pouvait en avoir 75, ce serait encore un petit peu mieux. Et là, l'idée, c'est de trouver un système, en fait, qui permet de lancer effectivement sa brouette, mais pas de passer 3 heures à chercher les calculs.
À les compter.
Donc ça marche avec des effets de seuil, c'est fait pour pouvoir relancer derrière, c'est fait pour faire ce plaisir. C'est pas du tout un système qui est fait pour brimer les joueurs, au contraire. Et la récompense d'un jet, ça va pas être tellement de savoir si on réussit ou pas. En ce sens, c'est proche de Wushu, justement. Mais ça va être la description qui va venir avant, la façon dont on va pouvoir se comparer et se la mesurer avec non seulement les adversaires, mais surtout les personnes à côté de vous. Parce que c'est bien sympa, si vous jouez en club, par exemple, de se la péter et d'y aller à fond, de faire une description de taré. C'est un peu dommage si pendant un an, vous devez subir les moqueries du joueur d'à côté parce qu'il vous a eu, qu'il a fait un meilleur score de dommage ou quoi que ce soit que vous. Donc, comme je disais, c'est vraiment un jeu de sale gosse qui est fait pour... C'est un peu bizarre. C'est à la fois un jeu de sale gosse qui est fait pour se la mesurer, pour qu'il y ait de l'action, etc. Et en essayant de mettre des éléments plutôt sop, plutôt typiquement ce qu'on peut trouver dans toutes ces animés japonaises ou à la Robotech, par exemple, où on a des jeunes héros dans des choses qui les dépassent et où les relations vont être aussi importantes que leurs capacités, en fait.
Oui.
Ce qu'on peut trouver aussi dans la nouvelle série Galactica. Imaginez, oui, par exemple, dans Galactica, que vous jouez les pilotes, et tout autour de vous, il y a les seconds rôles, tout autour de vous, il y a le gros vaisseau, tout autour de vous, il y a la flotte, et en fait, on va jouer les pilotes. Et donc, les relations sont aussi importantes que dans la série, par exemple. Tout ça a de l'importance, et en plus, les combats, on peut vraiment se faire plaisir. Enfin, les combats, les duels aériens, il n'y a pas que des combats.
Oui, ça peut être aussi des acrobaties.
Tout à fait. Ça peut être des acrobaties, et ça peut être... Par exemple, on va mettre un chapitre sur un élément tiré des jeux vidéo qui s'appelle les boss fights, en fait. Les combats de boss contre des grosses bestioles.
Ah, excellent. Avec des zones à toucher.
Exactement. Avec des zones à toucher. L'idée, c'est de se faire plaisir exactement comme un jeu vidéo. Après tout, si on est capable de passer la moitié d'une soirée pour faire un combat contre 12 gobelins, autant se faire l'étoile noire.
D'accord.
Et effectivement, on peut avoir des zones à toucher, on peut avoir des thèmes musicaux pour les méchants, on peut avoir des combats dans des zones à l'intérieur, on peut avoir des transformations de méchants, on peut avoir des choses comme ça. L'idée, c'est que, a priori, les combats sont rapides. C'est fait pour aller très très vite. Par contre, si vous avez envie de vous faire un vrai gros boss, c'est pas tellement un jeu qui est basé sur la mesure, on va dire. Donc si vous avez envie de faire quelque chose de vraiment énorme, eh ben, y a un espèce de mini-système qui est fait pour ça. Pour se dire, ce soir, on a envie de se faire effectivement un énorme truc qui va durer une demi-heure. Et à la limite même, peut-être que le boss, ce sera juste le décor. Ce sera peut-être juste le scénar, en fait. Mais c'est fait pour qu'on puisse se faire plaisir. C'est très... Effectivement, il y a pas mal d'inspiration qui vient des jeux vidéo et ce genre de choses.
La Shadow of the Colossus.
Typiquement, la Shadow of the Colossus, c'est clairement une des inspirations premières. Mais Shadow Colossus, sauf que c'est avec des avions, du coup on se retient pas forcément au poil des monstres.
Oui.
Mais c'est l'idée, ouais.
Ok, très bien. J'ai aussi une question sur la maison d'édition que tu as fondée, Lapin Marteau. Alors justement, pourquoi avoir créé une maison d'édition spécifiquement? Parce que après tout, il y a pas mal de tes projets perso, de trucs comme ça, qui ont été, tu as bossé pour d'autres éditeurs.
Alors, en effet, clairement, en plus, on a eu des propositions très très agréables de la part d'autres éditeurs pour Guts.
Oui.
Mais la raison, elle est à la fois primordiale et vraiment toute conne. C'est parce que l'écriture, c'est mon... mon activité principale, c'est j'ai pas d'autre boulot à côté, mm-hmm. et ça me permet d'en vivre.
D'accord.
Éditer les jeux, okay. ça me permet, enfin au moins partiellement d'en vivre. Je complète avec autre chose à côté, mais il y a le, enfin j'aimerais pouvoir dire que c'est pour avoir le contrôle du jeu, pour tout maîtriser dans une démarche finalement très très indépendante. Dans ouais. les faits, j'ai eu la chance de bosser avec, enfin la plupart des éditeurs avec qui j'ai eu la chance de bosser ont été super compréhensifs, jamais, enfin, il y en a eu 2-3 de pénibles, hein, bien sûr, mais globalement, par exemple, sur Tenga, John Doe oui. M'a jamais brimé et au contraire a répondu à mes questions là où j'avais des hésitations, notamment Pierre Guimet, ACAD, qui est la personne qui a chapeauté le projet chez John Doe, qui s'est occupé de la mise en page, qui s'est occupé de l'essentiel des illustrations. Bah, quand j'avais des doutes sur des choix liés à la façon de faire le bouquin, des choses comme ça, il a toujours été, il a toujours été là pour m'aider en fait, pas pour me dire change ça, mais pour répondre à mes questions que j'avais besoin d'un avis extérieur. Donc effectivement, c'est, j'aimerais bien dire que c'est militant, que c'est revendicatif, etc. Mais ce serait vraiment manquer de respect avec l'éditeur avec qui j'ai bossé, qui sont pour la plupart des passionnés, qui ont eux aussi cette démarche. Sauf qu'en plus, ils permettent à d'autres personnes de le faire. Quoi.
D'accord. Donc là, d'accord. Maintenant que cette structure est en place. Qu'est-ce que tu as comme projet après ?
Alors, en fait, j'ai un projet avant God sur un autre jeu qui devrait, si tout se passe bien, paraître en juillet.
D'accord.
C'est une traduction. Alors, c'est une traduction améliorée, mm-hmm. dans le sens où il y aura du contenu qui va être ajouté. Pour l'instant, je sais pas quand paraîtra l'interview. J'espère qu'on aura eu l'occasion d'en parler d'ici là. Mm-hmm. Pour l'instant, je vais encore faire des cachotteries. Je sais que c'est pas bien. Et Guts paraîtra un petit peu après. En fait, le premier jeu doit sortir pour des contraintes, notamment de droit avant, et notamment de coordination avec les, en fait, avec deux autres pays, pour sortir en même temps dans plusieurs pays.
D'accord.
Et ça nous permettra aussi de sortir une édition plus complète en fait de Guts. Ça nous permettra de mettre, par exemple, beaucoup plus d'illustrations. Sont réalisés,
Parce qu'il y aura le plus de temps justement pour avoir le temps de les faire, tu veux dire.
Il y aura plus que plus de temps, c'est aussi plus de budget tout simplement.
Ah oui, d'accord.
Il y a plus de budget, il y aura effectivement certains éléments qui prennent du temps, on pourra les faire. Là où si on l'avait sorti avant, on serait tenu en fait à nos premiers choix puisque le jeu est vraiment quasiment prêt. On a un premier supplément dont le premier volet des textes a été écrit. Il faudra remanier un petit peu, c'est quasiment fait. Par contre, on va pouvoir rajouter des choses en plus qui n'étaient pas prévues. Qu'on aurait aimé faire, mais qu'on n'aurait pas pu faire si on n'avait pas pris le temps de le sortir plus tard. Rajouter du volume. On va essayer de faire tout simplement le jeu qu'on aurait aimé avoir. Quoi.
D'accord.
Avec l'édition qu'on aurait aimé avoir. Et puis si on se plante, on sera au moins fait plaisir sur celui-là. Quoi. Il paraît qu'il faut être positif, mais on va essayer d'être réaliste. Quoi. Et pour les autres projets, on en a forcément toujours. C'est presque même plus une malédiction qu'une bonne chose.
En quoi c'est une malédiction ?
Parce qu'il faut trier. Parce qu'il y a toujours une idée pour un jeu qui vient sur un salon, sur un... tout le temps. Et si on ne peut pas prendre des notes, on les perd. Quoi. Mm-hmm. Et donc là, en fait, dans 15 jours, on va se réunir avec les autres personnes des Lapins Marteaux. Tout simplement, on va jouer au jeu ce qu'on a envie de développer et on va essayer de voir sur lesquels on s'amuse le plus et on va essayer de décider quel sera le jeu après Guts en fait.
D'accord. Alors, ça réunit qui, Lapin Marteau ?
D'un point de vue juridique, c'est essentiellement moi. D'un point de vue créatif, du point de vue des personnes qui me soutiennent, ça réunit par exemple les personnes qui bossent sur Guts, donc Gaël Delangue et Pierre Leguet, Goto. Qui sont Gaël est écrit sur Guts et Pierre essentiellement illustre, même si les deux étaient là depuis le début. Quelques autres personnes nous ont filé des coups de main, notamment Laurent Desvernay qui nous a écrit un chapitre du jeu, enfin pour nous rendre service, et parce que c'était sur un point sur lequel il est très fort, quoi, il sait faire, donc lui demander de me rendre service. Et puis, et puis quelques autres amis dont les noms vous diront rien, mais qui sont là depuis toujours et qui permettent de faire un petit peu moins de conneries ou de les faire avec une meilleure humeur.
D'accord, merci. Bon, bah, je pense que tu as répondu à toutes mes interrogations.
Merci à toi.
Merci et puis à la prochaine.
Avec plaisir.
Ciao.